je crois qu'il est 7 heures. Dans ce bar de Brest où tu m'avais donné rendez-vous après l'émission, tout sonnait faux. Les marins n'avaient jamais vu la mer. Les barbus étaient glabres, le grand était petit, le gros était maigre. Les poissons étaient des steaks hachés, la bière froide était chaude. Ça n'était pas moi, ça n'était pas toi, le bar était fermé depuis des années. Dans ce bar de Brest où tu m'avais donné rendez-vous après l'émission, souviens-toi. Nous n'y sommes jamais allés. Et pourtant il m'en reste des souvenirs vivaces. La mer s'était retirée depuis longtemps, le soleil était passé à la lune, la terre n'existait plus, Trump était brun. Souviens-toi, Brest, en ce temps-là. C'était après l'émission, c'était avant la suivante. C'était bien Brest vendredi dernier, souviens-toi. Tu étais nombreux avec moi. Les chœurs.
Pour les chœurs, Arnaud, non. On vous...
Non, c'est pas mon nom de famille, c'est pas mon famille, vous cherchez mon nom de famille.
C'était
Thomas,
surtout des foires,
non plus. Mais ma petite Marie Bonisse, oui. Le journal de 7h. On était à Brest vendredi dernier, c'était formidable.
Je m'en rappelle plus, moi.
Oui, bah bravo, vous étiez pas frais, hein. Pardon, Marie.
Le feuilleton Fillon, ça continue, épisode on ne sait plus combien. Et pour le suivre ce matin, il faut ouvrir les journaux. Alors d'un côté, le canard enchaîné qui en rajoute une couche et qui révèle que Pénélope Fillon aurait perçu au total 45 000 euros d'indemnité de licenciement, soit plus que ce que la loi prévoit pour un assistant parlementaire, d'après les calculs du canard, qualifié de faux et calomnieux par François Fillon, qui lui a choisi la presse quotidienne régionale. Le candidat, il signe une tribune dans Ouest France pour dire sa vérité. Alors on l'a déjà entendu, hein, tout est légal, mais il a commis une erreur. Rien n'ébranlera la volonté du candidat qui réclame le droit à une campagne loyale, sans coup bas ni coup monté. Fin de citation. Stop à la guerre, soyez unis, justice sera faite. C'est l'appel au calme lancé par Théo depuis son lit d'hôpital. Le jeune homme de 22 ans, victime de violences policières à Aulnay-sous-Bois, s'est exprimé pendant une visite de François Hollande hier midi. L'enregistrement a d'ailleurs été transmis par l'Élysée. Je rappelle que Théo, blessé au niveau de la zone rectale, souffre de 60 jours d'incapacité de travail. Les quatre policiers agresseurs présumés ont été suspendus et mis en examen, l'un pour viol, les trois autres pour violence volontaire. Abdallah El Amami, l'Égyptien suspecté de l'attaque du carrousel du Louvre, n'est plus en état de subir une garde à vue. Elle est levée depuis hier soir. Blessé par les tirs d'un militaire lors de l'attaque, le suspect est toujours à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. L'état d'urgence plus encadré. Après 15 mois de ce régime dit d'exception, les députés français ont voté cette nuit un amendement qui réduit les modalités des assignations à résidence et des perquisitions. Il y aura notamment moins de perquisitions nocturnes. Hier, les députés écossais ont voté eux aussi, mais c'était pour du beurre. Non au Brexit. Le symbole est fort pour ce Parlement dominé par les indépendantistes. Bon, dans les faits, c'est au Parlement de Westminster, celui de tout le Royaume-Uni, de décider. Et c'est prévu pour aujourd'hui. Le projet de loi qui lance le processus de divorce avec l'Union européenne passe en première lecture. Après les FARC et la deuxième guérilla de Colombie fait un pas vers la paix. Aujourd'hui commencent les négociations à huis clos entre le gouvernement et l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, qui comptera encore 1500 combattants après 52 ans de combat. Aux États-Unis, toujours à la une, c'est le décret anti-immigration suspendu de Donald Trump. Cette nuit, la Cour d'appel de San Francisco a entendu les arguments des deux parties. Elle devrait rendre sa décision dans la semaine. Et puis, grâce ou à cause de Donald Trump, l'art se pique maintenant de politique. Initiative assez spectaculaire du plus célèbre des musées américains, le MoMA de New York, qui expose en ce moment des œuvres d'artistes iraniens, irakiens, soudanais, en soutien avec les pays évidemment visés par le décret. Et puis pour finir, un mot de foot, hein. Le PSG a dû aller jusqu'aux arrêts de jeu pour l'emporter face aux Lillois hier soir, score final de 2-1. Les Parisiens restent donc à 3 petits points du leader Monaco au classement de la Ligue 1.
Atmen, je vous ai écouté là, oui. Je vous ai regardé écouter le journal. Là.
Est-ce qu'il m'a fait...
Non, mais je trouve que vous êtes hors sol.
Ah, oui, c'est...
Vous n'êtes pas dans les préoccupations des gens, vous êtes hors sol, vous êtes dans... Dans votre petit monde, vous ne savez pas le prix d'un ticket de pain, par exemple.
Non, je ne sais pas, non.
Voilà.
Moi aussi, je trouvais qu'il était vraiment hors sol.
Ah oui, il n'est pas là. Je ne suis pas là. Oui, puis il n'est pas dans le quotidien, déjà, il ne se rend pas du tout compte.
Vous voulez dire que...
Je sens que vous n'êtes pas...
Dans une vie...
Financièrement, vous êtes dans vos trucs, vous ne vous rendez pas compte avec quoi on vit.
Non.
Vous ne vous rendez pas compte de la météo, parce que vous êtes très couvert, vous avez constamment toute fourrure, ça.
Tout à fait, oui.
Oui, c'est votre chauffeur qui est là.
Exactement.
Et là, c'est son assistante. Oui, vous n'êtes pas du tout dans la vie. C'est pas parce que tous les matins, vous arrivez de Saint-Tropez pour faire l'émission et vous retournez à Cannes après.
Immédiatement,
c'est pas la vie de tout le monde. Hein,
il y a encore du caviar sur la joue.
Ouais. Continuez, mon petit Arnaud, dénoncez bien.
Oui, et puis tout à l'heure, il vous regardait, quand vous étiez tourné, il vous regardait bizarrement.
Ah bon, mon petit Arnaud?
Il regardait avec un air de quelque chose qui... une sorte de vengeance où je voudrais prendre votre place. Où...
Ah bon, attendez, je vois un petit papier que vous avez devant vous. Ah mais il y a des noms de gens avec leur adresse.
Et ça finit par Stein.
Il y a marqué pensez à le donner à la police française.
Oui.
Ah, c'est très bien, mon petit Arnaud. Vous êtes très gentil, vous êtes bien propre. Mène Fabien.
7h-9h plus près de toi.
Nissan est fier de vous annoncer la naissance d'un pick-up d'exception. Le nouveau Nissan Navara série limitée Edouard Baird. Deux grands noms enfin associés. Mus par une même volonté d'être utile à l'homme. L'un en allégeant le fardeau de la journée du travailleur par le rire matinal. L'autre en allégeant le fardeau du travailleur grâce à sa charge utile d'une tonne. Le nouveau Nissan Navara série limitée Edouard Baird, c'est tout l'esprit d'Edouard Baird dans un pick-up Nissan. Suspension arrière multibras. Garantie 5 ans. Autoradio programmé sur Radio Nova. Siège de velours rouge. 3,5 tonnes de capacité de remorquage. Rasoir électrique, effet barbe de 3 jours.
Nissan Navara, série limitée Edouard Baird. Tout l'esprit d'Edouard Baird dans un pick-up d'exception.
Nissan, innover autrement.
C'est quoi cette connerie? Attendez deux secondes. Donc la pub me répond. Armel, vous êtes complice de ça?
Je ne suis pas du tout complice de ça. C'est une le pub service qui vous répond. Je crois que c'est...
La pub me parle.
Vous avez parlé de Nissan la semaine dernière, je crois,
on
à l'antenne.
On a Jean-Claude Nissan très souvent, mais la pub me parle.
T'as Nissan en ton nom?
Mais eh bien oui, je suis vendu à toute la pub. Eh bien oui. S'associer à des marques, vendre son nom pour des t-shirts, des fromages, avoir le cul sur le fauteuil d'une voiture qu'on n'a pas payée. Ce sont ces petits plaisirs-là que propose la radio. Je suis aujourd'hui avec mon invité Claudio Nissan.
Bonjour.
Claudio Nissan, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes responsable de cette publicité?
Je ne suis pas réellement responsable. Disons qu'au niveau de ma famille...
Vous êtes japonais, je rappelle. Hein.
Non, je suis métis japonais-italien.
Oui, ah, c'est plus l'aspect italien qui l'a emporté. Vous avez décidé...
Non, parce que, regardez, je parle comme ça.
Oui, mais attendez qu'on dise moi là, j'ai l'impression de faire de la publi information. Bon, allez, envoyez-moi une musique.
Non, mais attendez, c'est quoi cette histoire de Nissan Edouard Baird avec le rasage?
Je vais mettre ça, je vais aller parler à l'étage publicité.
Elle existe, cette voiture, vous avez touché, attendez, monsieur.
Moi, par contre, touché. Au niveau des personnages, je préférais faire une mouette.
Ouais.
Je sais pas, envoyez la musique, je vais réfléchir à tout ça, ça va trop vite. Je suis avec le professeur Bernardin de Saint-Malo.
Bonsoir.
Professeur Bernardin de Saint-Malo, vous êtes...
De Saint-Malo.
Oui, vous êtes ethnologue, sociologue, tous les HOG, aucun ne vous échappe.
Les POG aussi.
Les POG, les ROG. Voilà, l'île sur Sorgue. Vous êtes aussi l'auteur de Capitalisme et autodérision. Vous expliquez, vous donnez comme exemple cet animateur radio qui avait cité Jean-Claude Nissan et qui a été mis lui-même dans une pub Nissan, se mordant ainsi la queue, si j'ose dire, si ça avait été un dragon ou un serpent.
Quelqu'un de très souple.
Très souple, qui arriverait évidemment à de telles pratiques et qui finirait au cirque de Pékin, bien entendu.
Et célibataire.
Pensez-vous que dès qu'on cite une marque dans le cadre d'une plaisanterie, quand cette marque se resserre de cette plaisanterie pour faire sa publicité, est-ce qu'on est foutu?
Non, je pense qu'à un moment donné, il y a moyen de retourner la blague que la marque a fait sur vous. Et comme la marque vous a englobé dans sa stratégie de communication, il va falloir trouver un objectif, sachant que vous voulez peut-être plus vous détacher de la marque par rapport à votre identité, vu que vous êtes plutôt quelqu'un de libéral, hein, je n'ai pas dit que vous étiez forcément à droite.
Libéré,
libéral, enfin dans le sens du 17e siècle.
Libertin.
Ça, c'est sûr.
Donc, qu'est-ce que je dois faire? Parce que vous êtes aussi l'inventeur de mai 68. Mai 68, c'est vous. Mai 81, c'est vous aussi.
Mai 60.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en mai 60?
Pas grand-chose.
Ah oui,
on n'avait pas imprimé les cartons au dernier moment. Voilà, une petite erreur.
Enfin, écoutez, je vous remercie, vous m'avez bien éclairé.
Moi, j'ai envie de conclure le débat en disant juste « What else ?»
Le grand plateau d'humeur du matin. Vous avez une petite musique pour annoncer ça? Qu'avez-vous vu ce matin? Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous nu? Qu'avez-vous bu? Tous autour de moi, vous êtes informés, vous êtes curieux du monde. Atman Khelif, qu'est-ce que vous avez noté ce
matin? Moi, dans l'excellent La Croix, par rapport aux séries télévisées familiales qui sont un petit peu un gros repère de discussion dans les salons par rapport à l'éducation des enfants. Alors, il y a des séries comme Fais pas si...
Vous avez dit deux par rapport à...
Ah, par rapport à quoi ?
Mais vous dites
des trucs. Je dis les séries de télévision familiale.
Donc il y a un article sur les séries de télévision familiale, oui.
Qui sont un lieu d'échange dans le salon pour parler de l'éducation des enfants. Alors ce sont des séries où on apprend que tout d'un coup, si on paye pas ses impôts, si on éduque mal ses enfants, ça fait déculpabiliser quoi.
Quelles sont ces séries citées?
Alors Fais pas ci, fais pas ça, oui. Clem et Une famille formidable.
Vous pensez que ce sont des séries qui sont financées en fait oui. Par l'éducation nationale,
exactement.
Ou le ministère à la famille?
Oui, pour dire que les enfants vont pas à l'école, qu'on leur donne mal à manger, qu'on s'occupe pas bien d'eux, qu'on leur montre par exemple on montre dans ces séries-là que deux hommes peuvent vivre ensemble. Alors donc après on était à la télé, puis après on en discute.
On est plus tolérant après.
Plus tolérant.
Est-ce que Plus belle la vie, c'est financé par quel ministère, par exemple?
Le ministère de la Pêche et de la Police.
Les Illuminati.
Les Illuminati, vous pensez?
Ah bon?
Oui.
Merci, Atmen. Donc,
vous voyez ce que je veux dire?
Thomas Baumgartner, qu'est-ce que vous avez noté? Thomas Baumgartner, il va nous sauver. Il va nous sauver du marasme et du néant.
Sûr, c'est
il plane ouais. Sur nous avec ses ailes d'ange.
Ouais, c'est beau, merci, Edouard. Dans Le Monde daté d'aujourd'hui, donc ce mercredi, un article sur les neutrinos. Qui sont les particules les plus légères de toutes les particules élémentaires. C'est de la physique, tout ça. Et ces particules, donc, seraient un outil scientifique pour nous permettre de comprendre particulièrement pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et pour ça, il faut faire une grande expérience qui est en cours jusqu'en 2025 dans un accélérateur de particules au Japon. Et donc, dans cet article, il y a Michel Godin, voilà, qui est directeur de recherche au CNRS et professeur de physique à Polytechnique. Donc voilà, il a quelques diplômes.
Donc vous voulez dire que le neutrino, c'est la première matière juste après le rien?
Oui, ce serait une trace du Big Bang, justement. C'est ce qu'on dit dans l'article, une trace du Big Bang. Et donc, Michel Godin nous dit la chose suivante. 98% de l'énergie dégagée par les supernovas, ces explosions d'étoiles à l'agonie, se trouvent sous forme de neutrinos. Voilà, c'est une origine d'explosion d'étoiles. Vu le nombre de supernovas qui ont explosé depuis le début de l'univers, nous faisons l'hypothèse que celui-ci doit être rempli d'une sorte de bruit de fond de neutrinos. En le sondant, dit Michel Godin, nous pourrons retracer l'évolution des étoiles dans le cosmos jusqu'à remonter aux tout premiers astres. Voilà.
J'y crois pas.
Vous en avez vu des neutrinos?
Moi, j'ai été neutrino moi-même. Les neutrinos, c'est des particules qui n'ont pas de masse. Et enfin, on ne sait pas si elles ont une masse. Et c'est vrai que si on arrive à trouver un peu des traces des premiers neutrinos, on pourra, comme dit...
C'est même plus léger que l'air, le neutrinos, vous diriez?
C'est plus léger, ouais, largement.
Ouais. Ça me fait
par rapport à un kilo, un kilo d'air, c'est.
Ça fait quel bruit le neutrinos? Parce qu'il parlait de bruit.
Ça peut traverser, je crois, je sais pas, genre 1000 milliards de kilomètres de plomb.
Pour les arrêter, il faudrait construire un mur de plomb d'une épaisseur d'une année-lumière.
Ouais. Ouais,
des petits Mexicains alors, parce que je peux construire un petit mur.
J'ai peur d'avoir un accident d'avion.
De neutrinos.
Non, en général.
Neutrinos.
Et on ne dit pas neutrinos, hein, parce que c'est les Grecs qui disent neutrinos. C'est neutrino. Hein.
Ouais, mais après, quand il y en a plusieurs, c'est neutrinos.
Maman ne vous aimait pas tellement, Atmen.
Non,
vous,
hein. C'est vrai.
On ne dit pas poulesse.
Ne m'aimait pas.
Je vous ai vu au moment des neutrinos, dont Arnaud Aymar a parlé brillamment.
Bonsoir.
Ça vous a rappelé, parce que dès qu'on est entre le je ne sais quoi, le presque rien, entre le début de la matière et la fin du vide, tout à coup, ce sont des trous béants, des trous noirs dans notre âme aussi.
J'étais le neutrinos de la famille, moi. J'étais le presque rien. Le moins que rien, celui qui était dans la cave et qui, quand maman disait « va chercher les bouteilles », je descendais comme ça avec mon petit short. Je remontais, je me cassais la gueule dans l'escalier. Et à un moment donné, un monsieur est rentré et a dit « je vais t'amener au puits
bon. ».
Il a racheté la petite avec une poupée et a dit « je la prends la Cosette, elle part avec
c'est
moi ».
Jean Valjean.
Oui, je suis parti à un moment donné, je suis devenu...
C'est donc... monsieur Dimanche avec Jean-Gérard Depardieu. Bon, il est 7h18, on a appris un truc scientifique. On a eu un mec qui s'est un petit peu déculotté en public, on a eu des trucs, il y a eu un mec vendu à la pub, on a tout là.
Il n'y a pas eu la météo, mais bon.
Et bien on continue quand même l'émission, à tout de suite. Nous sommes au téléphone avec Ramon Pipin. Ramon Pipin, allô, bonjour.
Bonjour Edouard.
Ramon, je vais vous resituer hein, pour les auditeurs. Ramon Pipin, c'était Au bonheur des dames avec ce fameux tube Olé fille, entre autres Olé fille, Olé fille, elle me rend de marteau. Hein. C'était dans le sens fou, pas dans le sens de l'objet. Ensuite, il y a eu bien sûr le groupe Odeur.
Absolument.
Il y a eu des concerts avec Coluche. Il y a eu
11
jours à l'Olympia avec voilà. Coluche qui s'était servi à l'époque de votre gloire, hein, le groupe Odeur pour se hisser.
Chanté une de nos chansons dont on était amis.
Bien sûr, je sais bien, Ramon. C'était quelle chanson?
Je m'aime, une très belle chanson qu'a interprété Chiti, qu'il avait interprétée pendant 6 mois. Et la légende dit qu'en fait, il n'y a aucune trace. Car son manager n'était pas éditeur.
Vous vous souvenez, je m'aime, ça disait quoi à peu près?
Je me fous des autres, ils me servent à rien. J'ai pas de parents, j'ai pas de copains, pas de poisson rouge, pas de chat, pas de chien. Il y a que quand je suis seul que je suis bien. Voilà.
Ah, c'est pas mal. Il y a aussi le cri du kangourou.
Le cri du kangourou, une chanson chrétienne, un peu dans la tradition du musical oui. que j'affectionne, des années 40, 50, etc.
Magnifique.
Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bruit un kangourou?
Ça ne peut pas faire cuit-cuit, ça ne peut pas faire miaou.
Ça peut pas faire miaou.
Atmen la connaît bien, par cœur. C'est Atmen Khelif, oui.
Oui, moi je l'adore cette chanson, elle est magnifique. J'adore les paroles.
Mais
qu'est-ce que ça peut faire comme crier un kangourou? Ça ne peut pas faire cuit-cuit, ça ne peut pas faire miaou. Personne ne peut dire quel est le cri qu'il fait. Peut-être que simplement le kangourou est muet.
Absolument. Et scientifiquement, je crois que c'est vrai d'ailleurs.
Alors vous revenez, cher Ramon, vous revenez là.
Je ne suis jamais parti.
Ah, c'est joli, c'est joli. C'est nous qui allons vous rechercher chez vous, dans ce château. Vous êtes peut-être avec vos droits d'auteur depuis quelques années. Ça s'appelle une chanson ennuyeuse. On en écoute tout de suite un petit extrait.
D'accord.
C'est une chanson ennuyeuse. Il s'y passe strictement rien. Ça fait des jours que je me creuse, mais tous mes efforts restent vains. La mélodie n'a qu'une note, le rythme en est primitif. Ça a un peu un goût de flotte à l'heure de l'apéritif. La la la, c'est le
Qu'est-ce qui s'est passé, Ramon Pipin ?
Eh ben, en fait, je me suis dit, mais comment faire pour faire un succès ? Donc, j'ai écouté plein de choses, beaucoup de chansons françaises, etc. J'ai essayé d'analyser avec, j'ai fait tourner, bien sûr, mes modèles informatiques et mathématiques. Et je suis arrivé à cette chanson qui n'a qu'une note et un texte passionnant. Et je me suis dit, ça y est, je vais être nominé aux Victoires.
On est dans un projet résolument putassier, Ramon ?
Je ne sais pas si on peut dire ça scientifique.
Scientifique, oui, Arnaud.
Bonsoir.
Le professeur Choudard qui est avec nous.
Bonsoir. Non, je trouve ça intéressant, justement, dans une société qui va brinque-balle, de pouvoir accéder à l'ennui. Les gens n'ont plus le temps de s'ennuyer, et c'est vrai que l'ennui, c'est la seule façon de se retrouver soi-même. Et,
absolument, mais.
C'est un acte résolument révolutionnaire.
C'est un acte révolutionnaire, mais je crois que c'est aussi un acte un peu ironique.
Ironique.
Ou sarcastique.
Ah, j'avais pas vu ça.
Ah non, on est déçus. Moi j'y croyais vraiment. L'album s'appelle Comment éclairer votre intérieur. Hein, le clip sort aujourd'hui ?
Le clip sort aujourd'hui, absolument.
J'ai vu le clip,
je crois d'ailleurs.
Oui, le clip formidable avec toute la bande de Groland. Vous vendez du rêve, Ramon Pipin.
Merci beaucoup, Edouard, c'est très gentil. J'essaye de faire rire et dire des choses pas trop cons.
Eh bien, on vous souhaite une très belle journée.
Eh bien, merci beaucoup. À
Salut.
Bientôt.
Tout va. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, il fait une chaleur dans cette émission.
Voilà, il va être 7h30, les gens commencent à arriver, les cafés commencent à chauffer, les crêpes à sauter, dans l'énorme casserole, là, ça mijote au fond du studio. Ça.
Je vous ai fait une bonne reboulade.
Qui est ce personnage?
Je sais pas.
Ah oui, mais je l'aimais
c'était
bien.
C'était un personnage de crack cuisinier.
Le père cracra.
Le père cracra. Il y a du jus d'orange.
Alors, je vais vous faire... Non, pardon.
Mais on la mangera pas.
C'est le journal de 7h30, Marie Bonisso, parce que je rappelle que Thierry Paret est en prison.
Après son discours de grand retour lundi, François Fillon écrit aux Français. Tribune à lire dans Ouest France ce matin.
Ouais.
Bon, il n'y a pas d'éléments nouveaux, mais il s'agit quand même de reprendre la main sur sa campagne, marquée par une nouvelle révélation du canard enchaîné. Pénélope Fillon aurait perçu 45 000 euros d'indemnité de licenciement.
Fillon,
on a trois Fillons dans le studio.
Fillon, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le studio. Attendez.
Pénélope,
il y a des jeunesses Fillonistes qui viennent d'arriver. Attendez.
Pénélope,
non, il y a des jeunesses Pénélopistes. Il y a les jeunesses Fillonistes et les Pénélopistes. S'il vous plaît.
45 000 euros.
Sortez-les.
Faites chier, Péné, je t'aime. Péné, je t'aime.
Ok, on reprend le journal.
Donc,
ils ont été sortis. Excusez-nous, c'est les pénélopistes, un mouvement très très violent.
Un mouvement violent qui répond aux accusations du canard, faux et calomnieux. Calomnieux, pardon. Stop à la guerre, soyez unis, justice sera faite. Ça, c'est l'appel au calme lancé par Théo hier depuis son lit d'hôpital. Le jeune homme de 22 ans, victime de violences policières à Aulnay-sous-Bois, s'est exprimé pendant une visite du président François Hollande hier midi. L'enregistrement a d'ailleurs été transmis par l'Élysée. Théo souffre de 60 jours d'incapacité de travail. Dans cette affaire, un policier est mis en examen pour viol, les trois autres pour violence volontaire. Le viol, une des infractions les plus graves, et pourtant seule une victime sur cinq se rend à la police ou à la gendarmerie. C'est le résultat d'une enquête de l'Observatoire national de la délinquance. 60% des victimes qu'il garde pour elle disent vouloir, je cite, « éviter une épreuve supplémentaire ». Ça, c'est un gros dossier avec des mauvais points. Le rapport annuel de la Cour des comptes qui évalue les dépenses publiques, il est publié ce matin. Et dans les choses qui vont pas en France, l'écotaxe poids lourd, un gâchis. Les CRS et les gendarmes au bord de la saturation avec cause de Vigipirate. Et les buralistes, dont certains profiteraient des aides de l'État d'après la Cour des comptes. Le secteur des buralistes doit se tourner, je cite, vers d'autres activités que le tabac. Après les FARC, la deuxième guérilla de Colombie fait un pas vers la paix. Aujourd'hui, il s'ouvre les négociations à huis clos entre le gouvernement et l'armée de libération nationale, l'ELN, qui comptera encore 1500 combattants après 52 ans de combat. Un mot de football, le PSG a dû aller jusqu'aux arrêts de jeu hier soir pour l'emporter face à Lille. Score final de 2-1. Et puis, sachez qu'il fait 5 degrés à Évry, 7 degrés à Bordeaux et 6 à Saint-Brieuc ce matin.
C'est très précis, ces villes ont été choisies, on ne sait pas pourquoi, ça doit des accointances, des réseaux. Vous étiez plus crédible sur le mot buraliste que sur le mot 2-0 dans le foot. Je vous le dis franchement, je vous ai senti moins dedans.
Et Saint-Brieux, ça allait ?
Oui, très bien.
Mais pourquoi buraliste ?
Oui. Je ne sais pas, je pense que Marie est plus vers la cigarette que vers le match de foot.
C'est pas bien.
La cigarette mène au cannabis. Ouais. Le cannabis mène aux drogues dures qui mènent à la prostitution et ensuite on vote à gauche.
Oui.
On est dans la rue avec Jack Souvent. Rappelez-vous,
presque,
Jack Souvent.
Presque dans la rue.
Je vous resitue, Jack. Jack, c'est ce fondu qui se balade dans les rues sur ses roulettes avec comme seul étendard sa fougue et son envie d'en découdre avec le tourment de la vie.
Ah oui, c'est
presque une micro.
Je suis content là. Mais justement, en découdre avec la vie...
Jacques, souvent tu t'intinabules sur le pavé parisien qui te caresse la semelle comme une femme de mauvaise vie dans un bordel de Bogota. Tu es beau gosse et ça va pour toi. Ta gueule, c'est ton culot. Ton culot, c'est ton envie de brasser, de mordre à pleine peau l'envie du matin qui pue dans ton cul. Oh, Paris, le matin, oh, Saint-Brieuc.
Paris.
Il pleut dans mon cœur comme il soleille sur Saint-Brieuc.
Paris.
Alors qu'est-ce qui se passe?
Dites donc, vous avez du flow ce matin.
Non, c'est parce qu'on est à poil. Alors,
en parlant de mordre, moi je suis en face d'un. C'est quoi, monsieur? C'est un. Disons-le clairement, c'est un pitbull.
C'est un pitbull, ouais. C'est un Staffordshire Bull Terrier, exactement. Ouais. Bonjour tout le monde.
Bonjour à vous.
Moi, ça me fait pas trop rire, le pitbull.
Pourquoi ?
Non, il est cool, il est cool.
Moi, ça me fait rire.
Bon, il s'appelle Jackson, il est cool, il a 3 ans et demi, et puis c'est une boule de muscles.
Boule de tendresse.
Ouais, et puis voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ?
Non, mais donc le matin, vous le sortez un petit peu pour qu'il voit la rue, pour qu'il...
Bah ouais, le matin, il faut bien qu'il se promène un petit peu, et puis voilà, quoi. Donc, et puis, il vient bosser avec moi toute la journée. Et puis, c'est un bon compagnon. C'est un chien tranquille.
Il va bosser où avec vous ?
À la buvette de Grand Clément, sur Villeurbanne.
Et alors, à la buvette de Grand Clément, il y a Jackson et vous ? Ça s'appelle chez...
Ça s'appelle la buvette de Place Grand Clément, exactement, ouais, à Villeurbanne.
Il y a des clients qui lui servent à boire aussi ?
Non, il y a des clients qui viennent le caresser. Il adore ça, il est très sociable.
Il a quand même bousculé 2-3 clients qui sont rentrés en sautant dessus. Hein.
Ouais, parce qu'il est heureux, voilà, tout simplement. Mais sinon, ça reste un bon chien, Jackson, ouais.
Monsieur, est-ce que Jackson est un peu votre meilleur ami ?
Il en fait partie, oui, effectivement. Ouais. Il en fait partie, c'est clair.
Est-ce que lorsque les hommes et les femmes vous déçoivent, il y a le sourire de Jackson et ce petit filet de bave qui coule amicalement sur sa bouche ?
Oh, la bave, pas trop, hein, quand même. Hein, mais c'est vrai que c'est un bon partenaire, voilà. C'est un bon partenaire.
Est-ce qu'il va chercher la babale ? Est-ce qu'il met ses grosses papates sur...
Ouais, il la lâche pas. La babale, il va la chercher, il vous la ramène, mais il la lâche pas, hein, je peux vous garantir.
Si Jackson était un être humain, vous croyez qu'il vous dirait quoi ?
T'as de la chance d'être mon ami, je pense.
Et vous, aujourd'hui, vous êtes avec Jackson, là, au téléphone. Là. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là?
T'es un bon gars, et t'es un bon partenaire de la vie. Voilà. C'est parce que c'est vraiment... quand on le regarde comme ça, il envoie de l'amour hein, dans le regard, hein, quand même.
Eh bien, rendez-vous à la buvette de Villeurbanne. Elle s'appelle comment, cette buvette?
La buvette de Grand Clément, voilà.
De Grand Clément. Qui dit buvette, dit boire, et 7h36, ouais. Il fait une de ses soifs. Bref, salut.
Salut, à toi. Salut, bonne journée, salut. Bye bye.
Bonne journée.
Ciao.
7h09.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
7h09, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
C'est très beau.
C'est une contrebasse, c'est un piano et même une voix. Jamila Falak, le morceau All About That sur Nova.
Thank you, Amel.
You're welcome.
Alors, normalement, c'est la rubrique Un enfant, un poème. On attend toujours l'enfant. En attendant, on peut faire Un adulte, un problème.
Oui.
Avec vous, Atmen.
Oui.
Ça vous inspire?
Ça m'inspire énormément, oui. Oui. Alors, le problème...
Vous avez une voix de vieux confesseur.
Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai, hein, en tant qu'adulte, c'est comment se débarrasser de ses enfants pendant les 15 jours de vacances qu'on a là en ce moment.
C'est de bonne guerre, voilà. Bien sûr. Oui, oui.
Alors, à Paris, il y a plein de petites activités que l'on peut faire avec ses enfants. Déjà, aller au château de Fontainebleau.
Ah oui, il y a une liste d'activités que vous avez trouvées dans le journal.
Dans l'excellent Parisien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors?
On peut aller au château de Fontainebleau.
Ah bah ça, les enfants sont demandeurs.
Voilà.
Très souvent, une phrase qu'on entend pendant les vacances de Paris. J'en ai marre, je vais aller au château de Fontainebleau.
J'en ai marre d'être enfermé dans la cuisine à faire des tartines. Allons au château de Fontainebleau, dit l'enfant, où il y aura des petits déguisements de mousquetaires, ils seront habillés façon Renaissance, ils apprendront à danser la danse baroque, ouais, avec les pieds.
Là, 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 là.
Et après, au parc zoologique de Paris, il y a apprendre à aimer le loup.
Ah oui, c'est important d'aimer le loup. Parce que le jour où il vous mangera, ça se passera dans de bonnes conditions, comme ça.
Comme ça, d'un côté, le loup vous aimera. Parce qu'il vous aura goûté, et de l'autre, vous l'aurez aimé. Comme ça, il y aura une réciprocité.
Ouais, bon, ça, c'est dehors. Ça, c'est dehors.
Non, c'est
ça
pas
va
mal.
Aller très, très vite.
Parce qu'on commence
on va
à leur chanter.
Jean-Noël qui a... ouvre la porte à Jean-Noël Mistral, qui va s'installer pour accueillir l'enfant.
Oui.
Voilà, Jean-Noël, venez avec nous pour écouter Atmen.
Je dois m'asseoir là.
Alors, pour finir, il y a du yoga et du rock à Montrouge. Il y a apprendre à faire des drones à Cergy. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout pour les enfants. C'est apprendre à faire des faux vases en céramique, façon Grèce, vous voyez, avec des... Moi, je me perds un peu dans mon truc, là.
Non, c'est vraiment scintillant ce que vous dites, justement. On a compris ce vase.
Ce vase en céramique, on peut casser après derrière.
Alors, écoutez, achetez ça dans le Parisien ce matin. Beau, voilà. Si vous avez des enfants, vous voulez vous en débarrasser pendant les vacances.
Ou alors, vous les perdez directement.
Ou alors, les emmener dans la forêt.
Dans la forêt, sans les petits cailloux.
Sans les petits cailloux,
on les perd en forêt de Rambouillet.
Ça tombe bien, voici Un enfant, un poème. Merci, Ahmed, c'était...
Un enfant, un poème.
Un enfant, un poème.
La joie venait toujours après la peine.
Alors l'enfant n'est pas là. Il s'appelle Ikma, il a 6 ans et je crois qu'il a eu un petit peu peur ce matin, Eugénie.
Oui.
Il a eu un trac le dernier moment.
Une petite panique, oui.
Oui. La peur de quoi peut-être? La peur de...
La peur de la radio, la peur du micro.
Oui. La peur de parler peut-être, la peur de...
Ça arrive au meilleur, hein.
Jean-Noël.
Peut-être qu'il n'est pas là, mais... Même son absence, finalement, il le rayonne, puisqu'on parle de lui. Et s'il nous entend, son poème, on ne l'a peut-être pas entendu, mais finalement, on l'entend, son poème.
On l'accueille, en tout cas.
On l'accueille, bien sûr.
Jean-Noël Mistral, qui est notre conseiller poétique.
Bonsoir.
Jean-Noël, c'est une thématique qui vous est chère, la peur de l'enfant, le refus de l'obstacle chez l'enfant.
Le refus de l'obstacle chez l'enfant, c'est...
Non, j'ai embrouché le cheval, pardon.
C'est
trompé.
Lorsqu'un enfant a un obstacle, de temps en temps, il ne veut pas le sauter, parce que...
Vous êtes entraîneur d'enfants à Fontainebleau.
Disons que j'ai connu quelqu'un qui était entraîneur d'enfants, et c'est vrai que quand ils entraînaient les enfants, et les enfants, des fois...
Qui est en prison pour mauvais traitement, pour coups et blessures.
Oui, mais souvent les enfants, ils ne sautaient pas, ils sautaient pas l'obstacle.
Ils se le prenaient dans la tronche.
Quoi. Ce qui fait que...
Ça n'est pas le sujet.
Non, là, c'est pas le sujet, mais c'est quand même intéressant de voir que ces enfants qui qui ont envie mais qui arrivent pas, ça c'est chouette, je trouve. C'est l'impuissance qui arrive normalement quand on est vieux. Oui, et là, c'est l'impuissance des jeunes. C'est chouette.
C'est très beau d'essayer, puis de
rater.
De se prendre le monde dans la gueule comme un.
Tout de suite.
Comme une poire qui tomberait d'un poirier, si je devais donner un exemple fruitier.
Ou d'un pêcher, si c'est une pêche.
Ah, une pêche, alors.
Une pêche. Oui, ou alors une poire qu'on aurait mis sur
le
pêcher.
Qu'on aurait mis sciemment.
Sciemment,
voilà,
sur le
pêcher. Quelqu'un qui aurait attaché une poire à un pêcher. Mais dans ce cas-là, elle tient.
Ça dépend. Ça dépend si c'est juste du gaffard, oui, mais.
Oui. Si c'est avec une... Ou si elle a été déposée, peut-être par un petit écureuil qui n'aurait pas mis ses lunettes, qui l'aurait pris pour
une il aurait pas. Peut-être il aurait mis le scotch à côté et ça tomberait à ce moment-là.
Et pourquoi on se coupe? Pourquoi?
Comment? Qu'est-ce qui vous arrive?
Pourquoi quelqu'un irait jusqu'à secouer le péché? Quelle idée d'aller secouer ce péché?
C'est une imitation de Roger Hanet.
Non, pas du tout.
Excusez-moi, parce que je pense à la souffrance animale dans le monde et de temps en temps, j'ai démonté de l'arbre.
Alors, on était à la poésie, là.
Jean-Noël.
Ouais, j'ai fait un poème.
Un poème de Jean-Noël Mistral.
J'ai fait un poème de l'année dernière.
Ah, je n'en avais pas
de l'aimais pas. Je ne l'aimais pas, alors. C'est pour ça que je.
Vous nous l'avez apporté.
Oui, parce que vous, les Parisiens, vous ne comprenez rien.
Merci, mais ce n'est pas qu'à Paris, vous savez, on est dans toute la France. Les gens vont être contents d'écouter ce poème. À Metz, à Angers.
À Blénaud.
Qu'est-ce que c'est que cette ville?
Chant de blé. Chant de blé, tu bruisses dans l'azur de tes petits criquets salés de poivre et d'éperlan. Chant de blé, tu respires à pleine mesure de tes doigts de tiges fragiles et tu peins le ciel d'un bleu si bleu que les astres du jour sont tombés. Je te regarde, chant de blé, et j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de perdre la joie de crier ton nom.
Chant de blé.
Alors, chant de blé, alors je souffle et je cours dans toi. Et avec mes jambes, j'écris pour les avions le prénom de Bérénice, qui un jour m'a fait disparaître sous le chapeau de tes chapelets d'épis.
Ah oui.
Et là, où dans ta pénombre j'ai blémi de vertige incessant.
Ah, vache, oui.
Toi, chant de blé, qui offre aux lièvres un abri, aux biches une jupe.
Oh, c'est vrai, oui.
À la girafe des tongs.
Oui.
À l'amour le beau temps.
Bien observé.
Alors, quand je passe devant toi, je repense à cet hypnotisme.
C'est pas facile à dire.
Hypnotisme.
Continue de jouer du piano.
Il y a longtemps que je vis seul, alors je souris. Qu'un jour, peut-être Bérénice reposera son petit pied sur le sentier de Saint-Marcel. Elle me sourira et nous sculpterions des flûtes dans des arbres creux et nous chanterons avec les abeilles en mangeant du pain et peut-être, mais peut-être pas, peut-être que si, mais peut-être que non, ou oui,
ou pas,
ou pas forcément, mais on sait pas, mais peut-être, c'est pas certain,
avec un peu de chance,
mais peut-être ça s'arrivera jamais, ou peut-être que
voilà.
Que dans un sens, ceci.
Détendez-vous. C'était très beau.
Ou peut-être non.
Ou non. Ah pardon, je suis dans le poème. Là.
J'ai pas fini.
Pardon.
Ou peut-être c'est vrai. Peut-être c'est... Voilà.
C'est fini. Merci. Alors Atmen, vous avez accompagné pendant toute la poésie, vous avez improvisé au piano.
Au piano, oui.
C'est difficile d'accompagner un poème comme Jean-Noël Mistral.
C'est très difficile avec Jean-Noël, parce qu'on ne sait pas où il va aller.
Oui.
On est sur des mots, puis on est sur d'autres phrases.
C'est vraiment du staccato que je fais, ce qui fait que lui, pour suivre, c'est vraiment pas évident.
C'est pas facile.
Vous étiez dans l'émotion tout le temps.
Oui.
Vous n'étiez pas intrusif musicalement.
Pas du tout, non.
Vous étiez vraiment dans l'accompagnement, vous étiez dévoué à
Dévoué, mais en même temps, on part en tournée souvent avec...
Alors souvent sans lui, et ce sont les meilleurs.
Oui, quand je suis sans lui...
Vous êtes triste, vous pensez à la souffrance.
Quand je suis sans lui, c'est mieux, en fait.
Voilà.
En tournée.
Merci à tous, Jean-Noël, et on regrette que l'enfant ne soit pas venu. Qu'est-ce qu'on lui dit à l'enfant qui n'est pas venu?
Ben, bien joué. Comme ça, comme tu es un enfant, ben, comme ça, tu as réussi à faire reculer la société.
Ah oui.
Et tu ne l'as pas fait avancer, C'est ça que l'humanité devrait essayer de faire. Et ainsi, peut-être, il y aura peut-être moins de pollution.
Chapeau bas, devant la casquette, le bourgeois, devant l'ouvrier. Les 7h49, nous étions en direct. Sinon, on aurait coupé, évidemment, la moitié.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird. 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
On est toujours là. Il va être 7h53. Il y a Françoise Touvenot, qui est une très grande scribe de cinéma, qui est passée nous voir, que j'aime beaucoup. Elle est passée ce matin. Elle savait qu'il y aurait des croissants, du café, un petit truc à faucher, peut-être. Françoise, rapproche-toi, Fanfan, du micro. Tu viens de terminer le bureau de légende, là, pour Canal+.
Oui.
Oh, c'est extrêmement mignon, ce oui. Script, comment on peut décrire ce métier de script de cinéma, des gens qui ne sauraient pas du tout ce que c'est ?
C'est un petit peu la mémoire du tournage, puisque comme on ne tourne pas dans la continuité, je m'appelle la continuity girl, en réalité en anglais, pour rétablir les raccords.
C'est toi qui sais ce qui se passe, qui portait quoi, qui disait quoi, qui était dans quelle humeur, où on en est, et beaucoup plus, suivant les metteurs en scène. Parfois aussi, tu sais le nombre d'axes qu'il faut faire, tu donnes des idées, c'est un métier passionnant.
Oui, très passionnant.
Comment on l'apprend, ce métier ?
Moi, je l'ai appris sur le tas, mais on peut l'apprendre dans les écoles de cinéma, comme la FEMIS, par exemple.
Il y en a combien en France, des script girls ? Parce que même pour les hommes, ça s'appelle encore script girl ou plus du tout ?
Je crois que ça c'est...
Il y a peu d'hommes, hein ?
Script boy, peut-être.
Il y a combien d'hommes qui font ça ?
Il y en a, à ma connaissance, il y en a un.
C'était Patrick Aubry ?
C'était Patrick.
Extraordinaire. Il y en a combien, tu dirais, en France, des scripts ?
Des scripts ? Oui. Pas la moindre idée.
Ah bah je te félicite, on est là, on est sur l'information, on veut en donner.
Question, oui. Est-ce que c'est une détective, la script à la maison ? Est-ce qu'elle continue chez elle à reproduire ce qu'elle a vécu ? Par exemple, si ton mari déplace une tasse ou si tout d'un coup...
Tu dis elle était là.
Ou qu'une femme était passée, tu dis « Ah !» j'ai repéré le cheveu de trop.
Ça, c'est Sherlock Holmes comme métier, non ?
Ah oui, mais ça s'apparente un petit peu au métier de script.
Non, moi, je suis un peu schizo pour ça. Je suis totalement différente dans la vie et sur un plateau.
Françoise vit à Mimizan. Elle n'a pas le temps de s'emmerder avec tes conneries, Ahmed.
Alors, on est avec
Messaoud Benterki, bonjour.
Bonjour.
Messaoud, on voulait vous parler parce qu'on a décidé de réhabiliter les sports méconnus. Il se trouve que le biathlon, ça commence demain. Les championnats de biathlon, les championnats du monde commencent demain. Et voilà, alors le biathlon, c'est typique. Le triathlon, on voit vaguement. Le thlon, le monothlon, ça n'existe pas. Et le biathlon, c'est quoi, Messaoud, de l'équipe, hein, vous êtes sur la chaîne L'Équipe.
Oui, exactement. Vous avez déjà eu l'occasion de regarder quelqu'un dans le studio ou pas ?
Alors, dans le studio, il n'y a plus personne, parce qu'ils ont profité que je vous parle pour aller boire des coups. Est-ce que tu as déjà regardé du biathlon ?
C'est de la course et du tir, non, le biathlon ?
Exactement.
Voilà,
c'est l'association de ski de fond et de tir.
De tir, c'est magnifique.
Exactement. Et ce qui est magique sur ce sport, c'est que même quand on ne connaît pas, même quand on ne s'y intéresse pas, on tombe dessus et on est complètement scotché. C'est la grande force de ce sport. Il y a une association de ski de fond et de tir. C'est en fait l'essence même du sport, c'est le suspense. C'est ce qui est vraiment l'incertitude, la fameuse incertitude du sport. Dans ce sport-là, il y a une incertitude tout le temps. Parce qu'à chaque passage au tir, en gros, remet complètement le suspense en jeu, quoi. C'est-à-dire qu'une erreur au tir, vous pouvez être devant, vous pouvez être en train de mener la course, et bien une erreur au tir, et bam, vous remettez votre adversaire en course. C'est ce qui fait vraiment la beauté de ce sport. Pour ceux qui regardent peut-être un petit peu plus le foot, c'est comme si un match de foot, en fait, se décidait dans les arrêts de jeu. Quasiment tout le temps.
Alors, jusqu'aux arrêts. Oui, sauf qu'un match de foot avec des fusils dans le dos, bon, c'est pas
compliqué.
Oui. Mais Messaoud Benterki, ça vient d'où le biathlon, l'idée de faire du ski de fond et tirer, ça vient de l'armée
Militaire à la base, les gardes frontaliers, en fait. Je pense qu'à un moment donné, on les remercie parce qu'ils devaient s'ennuyer un petit peu à une époque. Et pour se distraire, et bien, donc, ils ont associé leur activité, le ski et le tir. C'est parti de là.
Qu'est-ce qu'il y a de plus visuel ? C'est le moment de la course à ski ?
Plus visuel, c'est le tir. Il y a un moment vraiment... Enfin, moi, je suis en admiration parce que moi, j'étais plutôt foot au niveau du sport à la base. Et ce qui rend vraiment admiratif sur le biathlon, c'est un effort mais incroyable en ski de fond. Et en une fraction de seconde, il faut baisser la tension, les palpitations pour se concentrer sur le tir. Et c'est la transition entre le ski de fond et le tir qui fait que c'est un sport fabuleux. Et aujourd'hui, la captation au niveau de l'image, justement, c'est vraiment un sport télégénique par excellence, parce que la captation, elle est tellement bien faite aujourd'hui. On entend au moment où les tireurs arrivent la respiration, on les accompagne au moment du tir, et il y a un respect du public qui est incroyable. Il y a 30 000 personnes à peu près qui sont en tribune vers le pas de tir pour regarder le biathlon. Il y a le public qui accompagne exactement le tir. Alors, vous avez un silence qui se fait, qui est dingue. On entend respirer le tireur. la balle part et le public accompagne le tir s'il est réussi ou pas. Alors voilà, ça donne une au niveau sonore, c'est exceptionnel, ça fait pam, wow, pam, wow, et ça va à une vitesse dingue et ça repart après pour la course.
Ce qui est beau dans le tir, oui, c'est quand la personne tombe vraiment a été touchée par le tireur. Et là, c'est... Non, non, pardon.
Alors, on est à 50 mètres de la cible, hein, rendez-vous compte, vous faites des kilomètres en ski de fond, vous arrêtez à une vitesse supersonique et vous tirez, la cible, elle est à 50 mètres, vous avez 4 tirs. Et le moindre raté vous pénalise parce que vous avez un tour de pénalité, vous avez des secondes de pénalité.
Atmen ?
Oui, dites-moi, mais c'est nous les Français qui détenons le record, là, qui sommes champions.
C'est nous qui sommes les meilleurs.
Les meilleurs, quand même, il faut le dire.
On a un champion, on a un champion hors du commun qui est Martin Fourcade.
Voilà,
qui porte énormément ce sport en France, qui est largement leader de la Coupe du Monde, qui est un personnage aussi auquel les gens s'identifient énormément.
Il a un fusil qui a été fait sur lui-même. Il a un fusil très spécial, j'ai vu. Il avait un truc.
Un arc ?
Non, un fusil en fait, qui dégaine comme un clairon très très vite. À la fin du ski, il se pose, il tire son fusil comme un clairon et il repart. J'ai trouvé ça magnifique, cette image-là.
C'est exactement, vous parlez beaucoup mieux que moi du tir en fait. Je vais vous laisser venir sur le plateau pour raconter.
Atmen, il parle bien de tout, surtout de ce qu'il ne connaît pas. C'est mais Saoud Benterki, donc ça commence demain, c'est sur la chaîne L'Équipe.
Demain à partir de midi.
Les championnats de biathlon. Le fan de biathlon, pour terminer, quelles sont ses qualités à votre avis, est-ce qu'il construit un monde meilleur, ce fan de biathlon ? En quoi c'est un sport qui nous élève, cher Messaoud ?
Ah, c'est un sport qui nous élève. Ah, un sport qui vante l'humilité à ce point-là, ça nous élève. L'effort, vous voyez, on adore les cyclistes aussi parce qu'au moment où ils grimpent l'Alpe d'Huez, il y a cette notion d'effort qui est dingue. Eux, ils grimpent l'Alpe d'Huez à chaque course, en fait. Et derrière, il faut qu'ils s'arrêtent pour tirer. Donc, vous rendez compte de ce qu'ils font. Et ce sont des personnages auxquels on s'attache parce qu'ils sont dans l'humilité en permanence, ils parlent bien, ils s'expriment bien, ils se prennent pas pour d'autres. Vraiment, ils nous réconcilient avec le sport de très haut niveau et ils méritent qu'on les regarde. Et quand on regarde une fois, croyez-moi, on est scotché, on y retourne à chaque fois.
Eh bien, on va essayer. Merci, voilà, Messaoud Benterki.
Et
Atmen est bienvenu, très bien, sur la chaîne L'Équipe. Salut.
Merci,
Messaoud. En attendant, Marie Bonisseau qui est en train d'entrer dans le studio. Jean-Noël, vous avez eu quelques larmes en évoquant sur l'évocation de ce sport.
Oui, bien, j'ai eu des larmes de gel parce que je me suis dit que peut-être les elfes des bois, quand ils étaient dans les montagnes avant que les humains arrivent au quatrième âge, et quand Aragorn, par exemple, et Gimli, le nain, et ont traversé la Moria, évidemment, ils ont été obligés de faire du biathlon.
Peut-être, on ne le saura jamais.
Pour survivre par rapport aux gobelins.
On ne le saura jamais.
On ne le saura jamais.
Merci. Voilà, 8h40, gloire à Marie Bonisseau, le journal.
Radio Nova.
François Fillon veut dire sa vérité aux Français. Cette fois, c'est dans le journal Ouest-France que le candidat des Républicains étale sa défense face à ce qu'il qualifie de campagne médiatique d'une violence inouïe. À propos de l'embauche de sa femme Pénélope comme assistante, tout est légal, mais il reconnaît une erreur et s'excuse une nouvelle fois. François Fillon qui a dû aussi rejeter hier les nouvelles révélations du canard enchaîné. Pénélope Fillon aurait perçu au total 45 000 euros d'indemnité de licenciement, soit plus que ce que... Ah, ils reviennent,
C'est les Pénélopistes qui arrivent. C'est des fous de Pénélope Fillon. Attends.
Laissez-nous parler, on n'a rien dit.
C'est le mot-clé. Je ne le prononcerai plus. Pénélope aurait donc perçu 45 000 euros d'indemnité de licenciement et ce serait plus que ce que la loi prévoit pour un assistant parlementaire. Stop à la guerre, soyez unis, justice sera faite. C'est l'appel au calme lancé hier par Théo depuis son lit d'hôpital. Le jeune homme de 22 ans, victime de violences policières à Aulnay-sous-Bois, s'est exprimé pendant une visite de François Hollande à son chevet. Cette nuit, d'après la préfecture de Seine-Saint-Denis, le calme régnait à Aulnay-sous-Bois, mais quelques violences ont eu lieu dans les villes d'à côté, Tremblay, Sevran, Clichy-Montfermeil. Au total, 17 personnes auraient été interpellées. Le viol, une des infractions les plus graves et pourtant seule une victime sur cinq se rend à la police ou à la gendarmerie pour porter plainte. C'est une enquête de l'Observatoire national de la délinquance. 60% des victimes qu'ils gardent pour elles disent vouloir éviter une épreuve supplémentaire. L'état de santé d'Abdallah El Hamami, l'Égyptien suspecté de l'attaque du carrousel du Louvre, s'est aggravé. Il n'est plus en état de subir une garde à vue. Elle est donc levée depuis hier soir. Blessé par les tirs d'un militaire lors de l'attaque du Louvre, Abdallah El Hamami est toujours à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Est-ce que vous vous souvenez de l'écotaxe poids lourd, le projet du gouvernement abandonné après la fronde des bonnets rouges, un gâchis financier d'après la Cour des comptes qui publie son rapport annuel ce matin. À l'index aussi, les buralistes français, certains profitent des aides de l'État qui sont mal distribuées, relève la Cour des comptes. Le secteur doit donc se tourner vers d'autres activités que le tabac. L'état d'urgence plus encadré après 15 mois de ce régime dit d'exception. Les députés français ont voté cette nuit un amendement qui réduit les modalités des assignations à résidence et des perquisitions. Il y aura notamment moins de perquisitions nocturnes. Aux États-Unis, toujours à la une, c'est le décret anti-immigration toujours suspendu de Donald Trump. Cette nuit, la Cour d'appel de San Francisco a entendu les arguments des deux parties. Elle devrait rendre sa décision dans la semaine. En football, la Ligue 1, le PSG reste à 3 petits points de Monaco, le leader. Grâce à sa victoire hier soir à l'arraché contre Lille, 2-1. Et puis le ciel, bah c'est bof, c'est gris, c'est frais. Et on prévoit de la pluie sur tout le nord et la moitié est de la France. Il fait 6 degrés à Paris ce matin. Pareil à Quimper, mais avec des éclaircies prévues pour cet après-midi. 9 à Marseille, mais avec de la pluie.
Mais on prévoit, c'est-à-dire
On suppute.
On subodore.
On calcule.
Oui, on imagine. Quoi.
C'est peut-être faux.
On anticipe. Il faut être dans le présent. On va dans la rue, justement, avec Jacques Sou. Dans les rues de Villeurbanne.
Ouais.
Toujours à Villeurbanne ?
Non, on est. Où est-ce qu'on est, Ismaïl ?
On est à Saint-Priest.
On est à Saint-Priest, on arrive en fait, on s'est rencontrés dans la buvette du Roc Léman.
Oui, c'est ça, à la buvette, chez mon ami Raymond.
Voilà, chez Raymond. Et alors là, on arrive, on est en voiture, on arrive dans une zone commerciale où on va rencontrer des travailleurs en hotline.
Oui, c'est ça, donc ce sont des gens qui font du support informatique au téléphone.
Et on est en train de se garer.
Voilà, exactement. Voilà. Ça y est, on est garé.
J'écoute. Je rentre dans la voiture. Je suis vraiment avec vous.
Voilà, on est dans la voiture. Bonjour, Edouard.
Bonjour. Vous allez sauver des gens de leurs soucis informatiques ?
Voilà. On va essayer de les sauver, mais c'est pas évident. Mais
bon, c'est quoi le premier souci quand on vous appelle ? La question qui revient tout le temps, c'est quoi ?
Ah, bah, c'est les mots de passe. Le matin, les gens perdent leur mot de passe. Ils n'arrivent plus à se connecter.
C'est le matin ou c'est lié à la soirée de la veille, vous pensez ?
Je pense qu'il y a un petit peu des deux.
Est-ce qu'il y a des mots de passe qui reviennent beaucoup, à part 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais
oui,
qu'est-ce qui revient beaucoup ?
Le prénom des enfants ou de la femme ou de la maîtresse.
Ah, le prénom de la maîtresse ?
Oui.
C'est le type qui vous l'avoue, qui ne le dit pas à ma femme, c'est le prénom de ma maîtresse ou...
Parfois, oui, parfois ils le disent, oui.
Qu'est-ce que vous avez d'autre comme affaire à régler ?
Ah bah là, des petits soucis au quotidien, il faut que tout le monde soit à l'heure au travail, donc il faut s'assurer que tout le monde soit bien là.
Alors, hors antenne, vous m'avouiez votre haine de l'informatique, des ordinateurs, d'Internet et de l'électronique. Est-ce que vous vous êtes retrouvé là justement par souci de conspiration afin de s'aborder entièrement le monde électronique ?
On essaye de tuer Trump, mais c'est pas évident.
Oh, il n'y a pas que Trump.
Oh, il n'a rien fait.
Il n'a rien fait encore, laissez-le faire le mal avant qu'on se déchaîne. Qu'est-ce qui se passe dans vos journées ? Vous arrivez le matin, vous arrivez à Saint-Priest, vous vous installez, c'est un opening space, c'est quoi ?
Alors, il y a un open space, effectivement, oui, moi je n'y suis pas, mais j'ai un petit bureau, mais on commence par le café d'abord.
Vous avez un petit bureau parce que vous avez le statut cadre ?
C'est ça, oui, c'est ça.
Vous êtes chef de groupe ?
Oui, je dirige une équipe de 30 personnes.
Ah oui, est-ce que c'est donc une plateforme ? Vous les maltraitez un peu ? Vous êtes gentil ? Vous dites, donc, faites du rendement, les gars ?
Non, je suis assez sympa.
Alors, je voudrais un témoignage contradictoire sur cette phrase, je suis sympa. Jack ?
Alors, oui, c'est ça. Bah, on est encore enfermé dans la voiture, là. Je ne sais pas ce que c'est comme voiture, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'il est sympa ?
Ouais, il est assez sympa, mais on va aller dans la zone avec les gars sur ordinateur.
Alors voilà, vous me rappelez tout à l'heure.
Voilà, quand vous nous rappelez, on y sera.
Vous nous rappelez sur la plateforme tout à l'heure.
Oui. Très bien. Ouais.
Tout à fait. À tout à l'heure. Est-il sympa ? C'est ce que vous saurez ensuite. J'aime bien les feuilles.
Moi, j'ai analysé un petit peu tout ce qu'il dit, ses formulations de phrases, au niveau grammatical et tout. Mmh. Essayer de voir les pulsions sous-jacentes liées de sa forme turbolinguale.
Vous en concluez quoi ?
On ne sait pas encore. On est en train d'analyser avec.
Merci. Vous avez bien fait de prendre la parole.
Merci.
Tout de suite, nous sommes au lac d'Ourthain. Tito, notre.
Ouais, allô.
Tito, tu as passé 3 semaines avec nous à faire la météo ici et là tu es reparti au lac d'Ourthain.
Je suis au lac d'Ourthain, ouais. Je suis revenu chez moi où il pleut.
Pourquoi tu es parti ? On n'a plus la météo flamenco.
Oui, on a plus la météo.
Eh bien, parce que j'étais obligé de rentrer, j'ai des papiers à régler, il y a des choses à faire, fallait que j'aille voir la gueule de mon bateau, fait, voilà, tu vois.
La gueule de mon bateau.
La gueule de mon bateau. Bam, 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 bam,
il a quelle gueule, alors, le bateau?
La gueule de mon bateau.
Ah là là là, et vous, comment vous allez? Ça va?
Ça va, tu peux pas faire une météo flamenco au téléphone, le son va être mauvais.
J'en ai une petite à vous faire, une toute petite.
Vas-y.
Attention, accrochez-vous.
C'est une catastrophe.
Entre
7
et
9.
À
Bordeaux,
entre
7
et
9.
Et attention,
prochaine fois
à Paris, entre
3
et 12.
Oui, ils ont des
chapeaux. Il prend l'eau, le bateau, non? Il a l'air de prendre l'eau, non?
Tito, cool. Il y a une donnée. C'est très beau. Il y a une donnée que tu n'as pas. C'est qu'à la radio, le son est important.
Ah ouais?
À mais tout de suite. Que... Oui, ouais. On t'embrasse. Merci.
7h, 9h, plus près.
Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Sur Nova, le producteur Rémi, il s'appelle Rémi, et la chanteuse Sampa the Great, et le morceau For Good, à l'instant.
Vous l'avez bien désannoncé parce que c'était souriant, ça donnait envie.
Vous voulez le réécouter? Vous avez envie de le réécouter?
Ça vous donnait envie après, une fois que c'est trop tard. Je dis, ah, en fait, c'était bien, mais alors, c'est trop tard. Thomas Baumgartner, vous savez qu'on est avec oui. Zazie Tavitian.
C'est exact, elle est là.
De Time Out Paris, qui est une jeune femme donc, qui est spécialisée en restaurant, en nourriture, et qui a même eu une émission de radio qui s'appelait Un micro dans le frigo.
Ah oui, tout ce qui...
Vous le saviez, ça.
Oui, je le savais. Enfin, je m'en doutais. Ouais, enfin, j'en avais entendu parler.
On va la voir.
Oui.
Recevez-la
correctement. Ouais, alors, bonjour Zazie Tavitian.
Bonjour.
Très bien.
Ah, voilà.
Ça passe très bien.
Vous dirigez la rubrique gastronomie restaurant de Time Out Paris, et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de quelque chose qui vient d'arriver sur la table, Edouard.
J'adore cette expression qui est « les nouvelles tendances », comme
voilà.
On dit.
Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez dit.
Alors, qu'est-ce qu'il y a des tendances
qui émergent?
Oui, qu'est-ce qui émerge dans les restaurants à la mode, branchés? Est-ce qu'il y a des plats qu'on retrouve spécialement
aujourd'hui? Oui, il y a des plats qu'on retrouve à Paris et dans toute la France. Et là, je vous ai amené un petit plateau un peu particulier. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je vais vous laisser peut-être...
Alors, c'est une vraie dégustation, peut-être... contrairement à François Rolland. J'espère que ce n'est pas trop bon, sinon c'est désagréable pour les auditeurs qui ont l'impression qu'on se goberge auprès de la princesse. Donc, c'est un type de nourriture qu'on trouve aujourd'hui... Alors,
je n'ose pas vous dire où, parce que sinon je vais vous donner trop d'indices.
Et Arnaud.
Moi, je vais goûter. J'étais goûteur de Kadhafi il y a très longtemps, donc je vais goûter un petit peu.
Oui, il a survécu grâce à vous.
Peut-être déjà, on peut les décrire, ça ressemble à quoi?
Alors, vous avez apporté 3 pâtés de couleur, on est sur les beiges, tous les beiges sont convoqués, on a un gris, on a un noir. Aujourd'hui, après le... Est-ce qu'on est dans la cuisine, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les restaurants un peu fooding, branchés? On est dans la cuisine, on est dans du pré-mâché, on est dans de la verrine, on est dans du quoi?
Non, on n'est pas dans du pré-mâché ni de la verrine, mais alors là, c'est destiné à des gens qui, par exemple, ne mangent pas de viande ni de tout ce qui est
animal, lait, ni végétal aussi.
Ni végétal.
Donc non plus.
C'est, non, tout ce qui est vegan, en fait, tous ceux qui ne mangent pas de lait.
Il est bizarre le belge là. Un peu, non.
Alors ça, il est bizarre le belge, c'est une phrase très limite. Aucune couleur n'est bizarre. Mais soyez un peu ouvert.
C'est pas du tout la même chose. Le premier que vous avez mangé là, donc c'est un.
Ah, justement, je voudrais juste en parler. C'est rococo, je trouve.
C'est
bon maintenant.
C'est vrai que ça a l'apparence de ce qu'on donnerait à un chien qu'on n'aimerait pas. Et au goût, c'est rococo. Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un foie gras, mais en fait, qui n'est pas un foie gras, c'est un foie gras. Donc un foie gras vegan.
Vegan foie gras. Voilà. Donc c'est le foie d'une plante?
Non, alors je peux vous dire exactement ce qu'il y a dans le foie gras.
Le foie gras.
Je ne sais pas si je vais vous faire toute la liste.
C'est entre le
de la noix de cajou.
Oui.
Ah ouais,
c'est à base de noix de cajou. Et après, il y a de l'huile de coco, de la levure maltée, du citron, de la tomate. De la goutte de l'ail, voilà.
Du vegan du foie gras, c'est du foie gras avec une voiture, la vegan.
C'est excellent. C'est le foie gras sans la mauvaise conscience.
De bourrer des oies, de gaver des oies même.
Ah. À l'opposé, il y a toute une nouvelle tendance qui est de foie gras à base de foie humain.
Mais vous n'en avez pas mangé, Edouard. Edouard, il faut en manger.
Non, je respecte les auditeurs.
Faut finir.
Mais dis donc, mamie Tromblon. Non, mais dis donc, tati mec de lièvre. C'est tati Daniel ou quoi? Excusez, Atmen. Alors, l'autre plat...
Et les autres, c'est des fromages, en fait. Des fromages, ils appellent ça.
Alors, allez-y, Arnaud.
Donc, fromage vegan.
Eh bien, disons, je garde l'accent, hein, parce que... Je
trouve... Non, là, vous l'avez.
Eh bien, j'ai pas d'idée quand j'ai pas d'accent.
Donc, donc on est en train de déguster des choses qui... C'est pas du tout pour vous rendre jaloux, parce que c'est juste pour comprendre. Tout a été converti au vegan, en fait. Donc, on a du pâté sans pâté à base de noix de cajou. Du fromage à base de quoi?
Il n'y aurait pas un coup de blanc, là, parce que...
Fromage, c'est pareil, c'est soit noix de cajou, soit lait d'amande.
D'accord. Et le fromage gris, c'est à base de couleurs, c'est des couleurs, ça.
Lui, c'est noix de cajou aussi.
Zazie Tavitian, allons plus loin pour l'auditeur, peut-être, qui est là en train de manger des faux fromages. Est-ce que ça veut dire que tout se véganise? Est-ce qu'il y aura la version végane de tout dans l'avenir? Et peut-être même de Thomas Baumgartner?
C'est possible, je ne sais pas trop à quoi il ressemblera en version végane. Mais en tout cas, là, c'est la première fromagerie végane qui a ouvert à Paris. Et quand j'y étais, il y avait vraiment plein de gens curieux qui venaient goûter ces fromages-là. Donc,
Alors, est-ce que vous pensez que tous les restaurants, ça avait commencé avec les restaurants gastronomiques? On sait que le 3 étoiles de Ducasse ne sert plus de viande. Est-ce que de plus en plus de restaurants seront ou entièrement végane ou auront une version ou une carte végane?
Je pense quand même pas forcément. Parce que moi, il y a un resto que j'adore en ce moment, par exemple, et leur grand truc, c'est de faire eux-mêmes leurs saucisses, eux-mêmes leurs boudins, etc. Et ils n'ont pas du tout l'air d'avoir envie de manger vegan, et tant mieux. Parce que,
ça s'appelle comment?
Les Arlots.
Je ne dis pas tout, je cherche à dégager, Zazie, des grandes tendances, afin d'essayer de sociologiser la conversation.
Alors, Thomas, vous avez aussi apporté du sucré et du liquide.
Oui, alors du liquide, c'est pour faire passer un peu ces fromages...
Thomas, si vous êtes juste venu faire l'interview pour me dire ce qu'on a apporté et bouffé, c'est une honte.
Ah bon?
C'est une honte.
Là, j'ai apporté des bières,
contextualiser.
Qui ont tous un point commun, vous allez peut-être les trouver en regardant leur étiquette.
Oui.
Bon, celle-là, c'est moins évident, mais
C'est Ernestine, goutte d'or, la goutte d'or.
Donc là, il y a des boissons. S'il vous plaît, je voudrais un cadre à tout ça. Je veux un cadre. Là, qu'est-ce qu'on va essayer là? Qu'est-ce qui se passe au niveau?
Là, on va essayer des bières fabriquées toutes à Paris ou en Île-de-France, en tout cas. Et ça, c'est pour parler un peu de la tendance de la microbrasserie, parce qu'il y a de plus en plus de petites brasseries qui ouvrent partout en France et on boit de la bonne bière.
Alors, on n'a pas le droit de faire. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être bouilleur de cru, on n'a pas le droit de faire des alcools formes, on a le droit de brasser, de faire de la bière chez soi.
On a le droit de. Il y a de plus en plus de kits de brassage de bière qui existent où on peut brasser sa propre bière à la maison, donc oui, ça c'est autorisé.
Donc, on a le droit de faire des alcools à faible degré comme ça.
À faible degré.
Ahmed Kelly, vous appartenez à une famille de bouilleurs de cru, qui a été dénoncée par les voisins. Il y avait la vouive, la chabrac.
On faisait ça avec de la patate. Et c'était on sortait un petit alcool. On tirait à peu près 50 centilitres par verre à 90 degrés.
Votre grand-mère qui habitait les marais, qu'on appelait la vouivre, avait couché avec tous les notables. Et elle... Bon, écoutez, on fait une petite pause. Mais jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe là?
Ah non, on arrête, c'est horrible.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas.
C'est comment ça, enfin, c'est pas contre lui, c'est sûrement bien, mais c'est peut-être une question de contexte aussi.
C'était
pour une musique pour prendre des douches.
Pour préparer l'oreille, oui. Zazie Tavitian, on va continuer à côté à goûter ces produits, à parler de ces nouvelles tendances, mais il est l'heure de Marie Misset. Marie, vous étiez malade hier?
Oui, fort malade. Fort malade d'ailleurs, ça c'est... Bon, on va l'entendre encore un petit peu, il reste un
bout
dans la voix.
C'est courageux d'être venu,
Merci, ça sent un peu le pâté ici.
C'est très beau, il y a un bulldozer en vous.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Dans la revue de presse, on va réfléchir de bon matin à cette expression « à toute chose, malheur est bon ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En se demandant, et si finalement, si Trump ne réveillait pas des endormis, des plus intéressés et des pas concernés? La révolte est profondément positive puisqu'elle révèle ce qui en l'homme est toujours à défendre. C'est une citation d'Albert Camus en dernière page de La Croix aujourd'hui qui accompagne une photo de manifestation à Bucarest contre le gouvernement roumain. C'était lundi. Gaspard de Koenig dans Les Échos appuie le propos de l'image avec un article sur la leçon, je cite, anticorruption des citoyens roumains et rappelle qu'en Roumanie, les jeunes ne vont pas voter, mais ils descendent dans la rue le réveil d'un concerné ou de plusieurs. Mais elle pourrait aussi, cette photo, illustrer quelques autres articles qu'on trouve dans la presse ce matin. Tout d'abord, un autre article des Échos sur les entreprises de la Silicon Valley que le décret Muslim Ban de Donald Trump, qui vise à interdire l'entrée aux ressortissants de 7 pays jugés dangereux, a réveillé. La correspondante à San Francisco des Échos l'écrit, le décret signe la fin d'une certaine apathie politique de la Silicon Valley. Ces entreprises dont le mantra est quand même à longueur de journée qu'elles veulent rendre le monde meilleur, se sont lancées dans le combat. Plus de la moitié des fondateurs de licornes, ces entreprises valorisées à plus de 1 milliard, sont des immigrés. En tout cas, c'est ce que disait un rapport de 2016. 13% des employés du secteur technologique bénéficient d'un visa travail. Visa qui est aussi visé par un futur décret, pour l'instant à l'état de brouillon, de Donald Trump. Bref, il y a de quoi pour eux se révolter. La Silicon Valley, en manifestant, en signant des pétitions, en se déclarant sur la scène de combat, rejoint une mobilisation plus large, celle de la Californie. Les élus californiens fourbissent leurs armes, on lit dans les Échos. Les villes sanctuaires qui s'engage à ce que la police locale ne collabore pas avec les autorités fédérales pour livrer donc des ressortissants des 7 pays concernés. Tout ça se multiplie. En réponse, Trump a sorti un nouveau décret pour couper les financements fédéraux à ces villes et ces villes qui répondent, comme à San Francisco, par une action en justice. Bref, on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer non plus au Congrès. Dans Libération, on nous explique que jamais la formation d'un gouvernement américain n'a pris autant de temps. Sur 15 membres, seuls 5 sont confirmés. Les démocrates s'entraînent hardiment pour leur prochaine bataille. Mais comme on le voit, on peut le lire, sur ces actions de Trump, il y a un certain vocabulaire de la guerre qu'on emploie beaucoup dans les journaux. Bataille, combat, armes qui se fourbissent et compagnie. Et ça prend parfois des formes plus concrètes autre part. Cette guerre en Iran, ce ne sont pas des armes imaginaires qui se fourbissent, mais bien des réelles. Les Iraniens craignent la guerre. Les commandants des forces aériennes, des gardiens de la révolution l'ont d'ailleurs déclaré publiquement. Si l'ennemi commet une erreur, nos missiles hurlants s'abattront sur lui. Un test de missiles balistiques de moyenne portée aurait d'ailleurs eu lieu le 29 janvier. C'est Washington qui le dit. Les civils, eux, se préparent à d'autres tendures. Bref, ce sera pas pour de rire. Tandis que Le Monde nous dit que Benjamin Netanyahou, lui, grâce à l'élection de Donald Trump, goûte à l'ivresse de la conduite sans feu rouge. C'est une belle formule du Monde qu'ils utilisent après le vote de la Knesset de légaliser une cinquantaine de colonies sauvages en Cisjordanie. Netanyahou, qui aurait toujours été contre cette loi par peur de sanctions internationales, aurait finalement laissé libre cours. Ce n'est pas tout à fait la version de Lacroix qui explique que c'est sous la pression du ministre de l'Éducation que la loi a été portée au Parlement, que Benjamin Netanyahou n'a pas accepté jusqu'à ce qu'il ne voit qu'il n'ait plus l'intérêt de le faire. C'est n'importe quoi cette phrase. Que Benjamin Netanyahou ne voulait pas l'accepter tant qu'il n'avait pas compris que bref, les ultras ne le suivraient pas s'il n'acceptait pas. Mais Trump, lui, a déclaré son soutien si on ne l'embêtait pas trop, ce qui risque d'être le cas. La Croix ajoute que de toute façon, la Cour suprême invalidera une nouvelle fois cette loi qui est contraire aux lois fondamentales israéliennes et cela fournira de nouvelles armes anti-Cour suprême à la Knesset et à ce fameux ministre de l'Éducation. Encore une fois, on le lit comme pour se rassurer, un autre appel au
Détendez-vous, merci. Marie, buvez une gorgée d'eau.
J'y vais.
Vous pouvez dire le dernier chapitre, vous mettez une pression incroyable alors que les gens sont intéressés, les gens vous aiment.
Merci à toi.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, on en était là. On en était à la Cour suprême d'Israël qui va sûrement invalider cette loi. Et on lit une nouvelle fois, comme pour se rassurer, un autre appel au non-endormissement. C'est celui d'Alexandra Schwarzbrot dans Libération, après cette loi de la Knesset. On pourrait se dire que tant pis, on lâche l'affaire. Eh bien non, il ne faut rien laisser passer. Il faut préparer la suite. La suite, donc, dans les prochains épisodes.
Marie Missé, tous les matins, vous êtes là, vous êtes habitué à lire 200 journaux, à être branché sur 700 sites internet. Donc j'imagine que lorsque vous êtes malade et que vous arrêtez, ça continue, ça monte, la fièvre monte. Et les mots arrivent à votre bouche et ne peuvent pas sortir puisque vous n'êtes pas au micro. Donc aujourd'hui, c'est deux chroniques qui sont sorties à la fois.
Exactement, merde. C'est exactement ce qui s'est passé.
Et puis c'était pas simple parce que pendant ce temps-là, il y avait toute la vulgarité d'Atmen Khelif qui continue à manger les plats apportés par Zazie Tavitian de Time Out Paris. Zazie, les derniers plats étaient des desserts.
Oui, c'est des desserts. Alors pareil, c'est aussi une tendance du moment, c'est des desserts japonais. Ah. Ça s'appelle des dorayaki.
Et voilà là, un autre métier qui est difficile, Zazie, c'est de goûter manger, de la nourriture professionnellement, essayer des hôtels, des restaurants, des bars. On souffle pour vous.
Ah,
ça consiste en quoi votre quotidien, Zazie, à Time Out Paris? Vous faites le client secret?
Oui, je fais le client secret, je mange, je bois et après j'écris sur ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu. Voilà.
Ça, c'est dur aussi. Voilà, toutes ces souffrances, ce matin, nous vous les offrons en partage. Il est grand, le mystère de la foi. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Pour les infos, elle est bobo, elle est nini, elle est nisso, c'est bonisso.
Oh mon Dieu, dès que je parle de seconde, il y a...
Non mais il fallait qu'on enchaîne, moi, Paris, il m'a plus lancé.
Les infos,
bon, ça va, ok.
Radio Nova.
Théo a lancé un appel au calme hier. Stop à la guerre, soyez unis, justice sera faite, a dit le jeune d'Aulnay-sous-Bois dans une vidéo diffusée par l'Élysée. Théo, c'est la victime d'une grave agression policière. L'un des agresseurs est mis en examen pour viol. Il a reçu la visite de François Hollande à l'hôpital où il est toujours soigné. C'était hier midi. Son message a été entendu, en tout cas à Aulnay, où la nuit a été plutôt calme d'après la préfecture. En revanche, quelques violences dans les villes voisines et une quinzaine d'interpellations au total. Le viol, une des infractions les plus graves. Et pourtant, seule une victime sur cinq se rend à la police ou à la gendarmerie. C'est le résultat d'une enquête de l'Observatoire national de la délinquance. Explication, 60% des victimes qu'ils gardent pour elles disent vouloir éviter une épreuve supplémentaire. L'état d'urgence plus encadré après 15 mois de ce régime dit d'exception. Les députés français ont voté cette nuit un amendement qui réduit les modalités des assignations à résidence et des perquisitions. Il y aura notamment moins de perquisitions nocturnes. Suite de l'opération Transparence pour François Fillon, qui a choisi ce matin le journal Ouest France pour écrire sa vérité aux Français. Alors sur le fond, rien de nouveau, hein, le candidat des Républicains s'excuse une nouvelle fois. Il rejette les soupçons de détournement. Soupçon qui s'étoffe de nouvelles révélations du canard enchaîné à lire ce matin. Pénélope Fillon aurait perçu 45 000 euros d'indemnité de licenciement au total. C'est plus que ce que prévoit la loi pour une assistante parlementaire d'après le canard enchaîné. La Cour des comptes a fait les comptes et le secteur des buralistes devrait se tourner vers d'autres activités que le tabac. Certains vendeurs de tabac profitent des aides de l'État mal distribuées d'après la Cour dans son rapport annuel. Mauvais point aussi pour l'écotaxe poids lourd, un gâchis financier qui pèse sur les communes. En football, le PSG a dû aller jusqu'aux arrêts de jeu pour l'emporter face à Lille hier soir, score final de 2-1. Les Parisiens sont à 3 petits points du leader Monaco au classement de la Ligue 1. Et puis le ciel, eh ben c'est pas terrible, surtout sur tout le nord et la moitié est de la France où vous ne verrez pas vraiment le soleil, où il y aura beaucoup de pluie. De l'autre côté, donc toute la façade ouest, c'est un peu mieux. Au niveau des températures, il fait 6 à Paris ce matin, pareil à Quimper avec des éclaircies prévues pour cet après-midi. Et puis 10 à Bordeaux où il devrait faire plutôt beau.
Merci Marie Bonisso. Le côté vous ne verrez pas le soleil, je ne comprends pas. Parce qu'il faudrait qu'on le cherche, il faudrait que ce soit le soleil qu'il y a dans le ciel, il y en a plein d'autres. Tout de suite, on est à Villeurbanne. C'est mon petit soleil, c'est Jacques souvent. Jacques ?
On est du mauvais côté du vent ? Ah ben oui.
Est-ce que vous êtes sur la plateforme téléphonique ?
Non, pas du tout. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Alors là,
j'aurais fait pareil.
Comment vous appelez ?
Frédéric.
Frédéric, il est en train de nettoyer les vitres. On est à 18 mètres de haut, là.
Très dynamique. Bon.
Il fait un peu froid, mais tout va bien.
Vous avez la patate, là, Frédéric. Vous avez une voix, là. Vous êtes prêt à bouffer le monde, là.
Oui, oui. Bah, je suis levé de bonne heure, si vous voulez, avec les nacelles. Il faut qu'on travaille de bonne heure avant que les gens nous gênent.
Alors attendez, Frédéric.
Les voitures se garent.
Vous êtes monté sur une nacelle, là, et vous avez emmené Jacques Souvent ?
Oui.
Mais vous êtes où ? Vous êtes à quelle hauteur ?
Oh là, on est bien une bonne douzaine de mètres.
Ah
on
non,
va dire.
Il faut une photo là. Jacques, faites une photo avec Frédéric parce que.
Je vais faire une photo, je vais vous l'envoyer.
C'est comment là-haut, voilà. Jacques ?
Ça caille un peu. Il disait qu'on est du mauvais côté du vent. C'est vrai qu'il y a le vent qui souffle là.
Hein. Et oui, le vent s'est levé ce matin et on est à l'arrière du bâtiment, côté nord. Et voilà. J'espère que ça va pas pousser un peu trop parce que les nacelles n'aiment pas le vent.
Vous êtes spécialisé dans les travaux en altitude, Frédéric ?
Je suis spécialisé dans le lavage de vitres. Il m'arrive de faire des travaux en hauteur.
Est-ce que vous êtes déjà allé jusqu'à la tour Crayon, là-haut, à Lyon, là, tout en haut ?
Non. J'ai fait les intérieurs de la tour du Crayon, oui, comme vous dites. Mais non, je n'ai pas fait d'un seul extérieur sur la tour. J'ai fait d'autres tours autour de Lyon. La tour de la Caisse d'Épargne, la tour du Britannia, c'est des nacelles qui sont fixes sur bâtiment. Hein, celles-ci, c'est pas des nacelles automotrices comme celles d'aujourd'hui.
Alors comment ça... Pardon.
Qui, qui,
18 tonnes, 18 mètres, c'est quoi? Ça fait bien 3 ou 4 tonnes et c'est 4x4, ça monte et ça descend, ça va à droite à gauche.
C'est quoi la sensation quand vous êtes là-haut, là, vous êtes seul, vous êtes à 20 mètres, il fait encore nuit, vous êtes au-dessus de Lyon, il y a une sensation de liberté?
Oui, parce que souvent on travaille sans personne en dessous de nous. Il y a les éclairages où c'est le matin de bonheur. Oui, effectivement, c'est une belle sensation. Souvent, le soleil se lève, on est au-dessus des bâtiments ou à côté des bâtiments. Et c'est assez sympa, ouais. Mais ce qui est sympa, c'est surtout qu'on est en train de voir les gens bosser dans les bureaux. On passe le long des bureaux.
Vous surprenez des scènes étonnantes parfois?
Oh, c'est rare. Très rare.
Il suffirait d'une. Est-ce que parfois vous vous endormez? Est-ce que vous faites votre pause là-bas, votre pot de casse-croûte et votre sieste là-haut, perché dans le ciel?
Ah oui, c'est tout sur place. On reste du matin au soir. Non, pas de casse-croûte. Il y a quand même des règles de sécurité. On a du harnais, on a du. Moi, j'en ai pas. Voilà.
Ah oui.
Je l'ai emmené avec moi sans harnais, donc on va pas non plus faire les zèbres.
Bon, bah alors, serrez-le fort contre vous, oui, Atmen.
Oui, est-ce que vous avez du sang Cherokee? Parce qu'il ne faut pas avoir le vertige, il paraît, pour faire ces métiers-là. Est-ce que vous avez le vertige?
C'est vrai, il ne faut absolument pas de vertige, ça, ouais. Je le confirme.
Moi, je l'ai. Comment il faut le combattre, le vertige?
Je pense qu'on ne le combat pas, on l'a ou on ne l'a
c'est
pas.
C'est inné, ouais, d'accord.
Oui. Vous en apercevez rapidement hein, quand vous passez les premiers cassettes pour l'autorisation sur les nacelles. Et quand vous avez des nacelles avec chauffeur où on vous emmène à 40 mètres de haut pour faire de la vitrerie sur Lyon, franchement, non. Si vous l'avez, vous l'avez. Sinon, vous êtes, vous montez pas dessus. Hein.
Bon, on attend la photo de vous avec Jack. J'espère que ça sera aussi beau que les photos des Cherokees qu'ont construit New York, qu'on voit tout là-haut.
Il a un petit regard astronaute quand même, je trouve. Si regardez le bouton rouge, c'est fait pour quoi là?
Non, pas le bouton. Non.
Le nouveau Nissan Navara série limitée Édouard Baer, c'est avant tout l'histoire d'une belle rencontre. La rencontre de deux volontés qui ont décidé d'être utiles aux hommes ainsi qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi, pendant qu'Édouard Baer fera la promotion du Nissan Navara dans les milieux artistiques parisiens, nous, Nissan, nous ferons connaître Édouard Baer dans tout le reste du monde. Par-delà les monts, à travers la toundra, même là où la réception de Nova est difficile, le monde découvrira ton nom, Édouard. C'est ça l'esprit du Nissan Navara série limitée Édouard Baer. Unir ceux que tout sépare. Un grand message d'espoir par ces temps troublés.
Nissan Navara série limitée Édouard Baer. Tout l'esprit d'Édouard Baer dans un pick-up d'exception.
Nissan, innover autrement.
Oui, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors voilà, c'est la deuxième fois ce matin que j'ai un message de Nissan. Parce qu'on avait fait, on disait l'autre jour qu'on n'en pouvait plus des pubs sur Navara, et particulièrement la pub Nissan, on n'en pouvait plus l'entendre. Donc j'avais essayé de la fourguer sur d'autres radios. Et ils ont réussi en fait à détourner... c'est l'autodérision des marques, on est foutu quoi. Quoi qu'on fasse, on est encore dans la marque. Alors je suis Bernard Lidl, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Lidl, si je fais des blagues sur Lidl, j'aurai quoi?
Vous aurez différents avantages évidemment. Déjà de pouvoir pas forcément faire la queue à la queue.
Oui, donc si je dis par exemple vive Lidl, là déjà je ne fais plus la queue.
Déjà vous faites plus la queue et par contre il faudra parler de nous, avoir des autocollants.
Et j'aurai des produits Lidl par exemple, il y aura du Schweppes, du pain.
Tout ce qui est papier absorbant.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque, on a beaucoup comme pub?
Renault,
et je pourrais avoir plusieurs voitures, il ne faut pas le dire à Nissan, mais je peux avoir une Renault Peugeot.
En fait, ce qui serait intéressant pour vous, c'est d'acheter des Renault et puis de mettre des autocollants Nissan dessus.
Et à ce moment-là, je fais deux fois la culbute.
Boursorama.
Vous faites deux fois la culbute et en même temps, vous arnaquez tout le monde. Et c'est ce qui fait que l'englobage que vous avez été victime au niveau de Nissan, et comme ça, vous les culbutez dans l'autre.
En ce moment-là, sur deux premières années, je fais plus 12, et ensuite sur la troisième année, je m'y retrouve et je ne suis pas gros Jean comme devant, parce que je fais trois fois la culbute.
4 fois parce que vous n'avez pas compté la TVA.
Alors, si
vous
mettez pas cher là, parce que je la décape en France, je suis défiscalisé là-dessus, parce qu'à ce moment-là, je suis sur un paradis fiscal, parce que je pars aux îles Caïmans, puis qui est retransite par Luxembourg. Je demande à Mathieu Pigas, qui est le patron de la moitié du monde, avec Bernard Arnault et tout ça, qui nous tiennent par les couilles avec les Illuminati.
Ouais, dans ce cas, c'est bon. Ouais.
Ok, c'est bon. On envoie un morceau, puis on reçoit. C'est bon. On est gagnant, à tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis quelques semaines, je vois Trump signer décret après décret. Et on a l'impression que ces décrets vont être appliqués aussitôt, alors que j'avais l'impression que pendant les années Obama, une fois qu'il décidait quelque chose, il fallait des semaines, des mois pour que la loi passe, et souvent elle ne passait pas. Alors on a cherché quelqu'un, on a eu la chance de tomber sur Paul Shore, qui est maître de conférence en civilisation américaine à Paris 7, qui est un spécialiste de la Constitution américaine, qui va nous aider. Bonjour Paul Shore.
Bonjour.
Thomas Baumgartner, récapitulons un peu où on en est depuis les décrets Trump.
Le dernier décret en date, celui qui fait le plus de bruit en ce moment, c'est ce décret anti-immigration qui a été signé par Donald Trump, qui empêche les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain. Ce sont les citoyens du Yémen, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et d'Irak, mais qui fait l'objet, ce décret, d'une bataille juridique. Vendredi, James Robart, un juge fédéral de Seattle, a bloqué donc ce décret anti-immigration. Ensuite, la Maison-Blanche a promis par le ministre de la Justice qu'il entendait déposer une injonction d'urgence pour faire appliquer le décret quand même. Puis la diplomatie américaine a décidé de réinstaurer 60 000 visas qui avaient été bloqués. Ce dimanche-là, une cour d'appel américaine a rejeté la demande de l'administration de Trump de rétablir le décret. Et en ce moment, la cour d'appel de San Francisco examine la décision de ce juge de Seattle, James Robart, cette décision de suspension. Et il y aura une décision, normalement, dans la semaine, c'est ce que disait Marie Bonessio tout à l'heure dans le journal.
Donc Paul Shore, rassurez-nous, les États-Unis, c'est une démocratie. Il ne suffit pas que le président signe un papier pour que tout à coup, tout soit appliqué.
Oui, mais c'est-à-dire que le président a des pouvoirs et donc là, il gouverne pour le moment par décret, enfin l'équivalent d'ordonnance. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus rapide que s'il essayait de faire adopter des lois par le Congrès. L'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'examen préalable de ces décrets. Et l'inconvénient pour lui, c'est que a posteriori, on le voit, les juges tombent dessus en disant « mais vous ne pouvez pas faire ça ». Et visiblement, Trump et son équipe, ils ont été très surpris qu'en fait, quelqu'un vienne leur dire « non, mais vous ne pouvez pas faire ça ». Puisque la défense du juriste qui défend Trump auprès des tribunaux, c'est de dire le président a décidé qu'il voulait faire ça, donc il le fait. Et quand on lui dit, mais est-ce que vous avez des arguments pour dire qu'il faut absolument faire ça dès aujourd'hui, que ça ne peut pas attendre, ils disent, c'est une compétence du président d'évaluer le danger.
Alors, décret et loi, quelle est la différence, simplement, en quelques mots?
Une loi en fait doit être votée par les deux chambres du Congrès, donc ça veut dire que en fait vous avez les démocrates et les républicains, donc les républicains ont la majorité dans les deux chambres. Ça prend du temps et à la fin ça prend plusieurs mois en général, et à la fin pour que ça devienne une loi, il faut que le président la signe, ou s'il refuse de la signer, il met son veto. Un décret, c'est ce qu'a fait Trump, c'est à peu près aussi rapide que Twitter. Normalement, quand on fait correctement les décrets, Obama en avait fait, on consulte les juristes du ministère de la Justice, on consulte son équipe, on se dit est-ce que c'est constitutionnel, est-ce qu'on ne va pas se faire rattraper. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, aussi bien les sénateurs en charge de ce genre de questions que pas mal de gens à l'intérieur du ministère de la Justice sont tombés des nues quand le décret a été publié. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'amateurisme du côté de Trump. Mais en gros, son argument, c'est « j'ai promis à mes électeurs que je le ferai ». Et là, il y a des esprits grincheux qui me disent la loi, c'est pas légal, la procédure, il y a de la discrimination, ça m'intéresse pas.
Alors vous dites que les républicains ont la majorité dans les deux chambres, mais ce sont des républicains pur jus à l'ancienne, ce sont pas des trumpistes. Alors jusqu'où est-ce qu'on pense qu'ils vont accompagner Trump?
On pensait qu'il y aurait peut-être pas vraiment une lune de miel, mais une sorte de période un petit peu plus longue de calme. Mais comme Trump est parti très vite sans attendre sur des choses qui sont quand même en rupture avec les positions d'un certain nombre de républicains plus classiques, comme vous dites. L'intérêt des républicains, c'est quand même de s'allier à Trump parce qu'il y a la majorité, enfin, d'une certaine manière, la majorité des électeurs ont voté pour lui, même si on sait que ce n'est pas tout à fait la majorité. Donc il y a un risque pour eux, il y a un risque pour eux de perdre leurs propres électeurs s'ils sabotent Trump trop vite. Le problème, c'est que Trump, là, les emmène très vite sur des terrains où ils n'ont pas envie d'aller. Donc il y a déjà au Sénat deux sénatrices républicaines qui ont voté contre la confirmation de la ministre de l'Éducation. Bon, elle est passée quand même, mais...
Ah oui, on l'a vu, cette ministre de l'Éducation. Il y a un moment où Bernie Sanders lui posait des questions. C'est elle qui l'a dit. Est-ce que vous avez l'impression que si vous n'étiez pas milliardaire, vous seriez à cette place? C'est elle?
Oui, c'est elle. C'est elle aussi qui, quand on lui pose des questions sur des lois qui sont en place depuis 30 ans, dit que ça serait une bonne idée de les mettre en place et qu'elle va étudier le sujet. Et donc, en fait, elle a montré dans les auditions qu'en fait, elle était totalement incompétente. Et par ailleurs, ce qu'elle est, c'est une lobbyiste des écoles privées qui, en fait, a dit plusieurs fois ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'école publique aux États-Unis. Et donc maintenant, elle est ministre de l'éducation publique. Donc, il y a un vrai problème. Et le fait qu'elle ait failli ne pas être confirmée, en fait, si elle n'avait pas été confirmée, ça ne serait pas arrivé depuis des décennies qu'un président qui arrive n'arrive pas à constituer son équipe. Et là, c'est vraiment pas passé loin. Donc, les Républicains commencent, certains d'entre eux, à un peu se révolter, mais pour le moment, doucement.
Il y a des types comme McCain qui doivent avouer une haine absolue à Trump.
Oui, oui. McCain, par exemple, a été très critique du décret sur l'immigration. Oui. Mais ensuite, la question, c'est de savoir s'ils veulent aller jusqu'au point où de vouloir bloquer
le système. Non,
ouais. Paul Shore, pour revenir sur justement ce décret anti-immigration, qu'est-ce qui peut se passer après la décision de la Cour d'appel de San Francisco qui doit donc être rendue ces jours-ci sur cette validité? La suite, c'est quoi? C'est la Cour suprême? Auquel cas, ouais. Qu'est-ce qu'on peut parier? Parce qu'aujourd'hui, la Cour suprême, c'est 4 progressistes contre 4 conservateurs.
Oui, la suite, logiquement, en fait, ce qu'on peut penser qui va se passer, c'est que pour le moment, la situation va être gelée telle qu'elle est. C'est-à-dire que sans doute, vu la façon dont sont passées les auditions au tribunal de San Francisco, ils vont dire non, on suspend le décret jusqu'à ce qu'on soit sûr de sa constitutionnalité. La Maison-Blanche va continuer, ça va aller jusqu'à la Cour suprême. Et comme vous l'avez dit, là, actuellement, il n'y a que 8 juges, il en manque un à la Cour suprême. Trump a proposé un juge très conservateur, mais ça prendra un certain temps avant qu'il soit nommé à la Cour, s'il est confirmé. Et donc, ce qui est possible, c'est que la Cour suprême, d'ici quelques mois, dise non, en fait, il n'y a pas d'urgence. Mais en attendant, il est aussi possible que Trump prenne un autre décret plus précis, plus limitatif et qui ait l'air moins discriminatoire.
Donc vous pensez qu'il peut se calmer un peu? Parce qu'on est quand même dans des époques où l'inimaginable arrive. Donc essayons de l'imaginer, c'est inimaginable. Est-ce que vous avez l'impression que par exemple Trump pourrait faire un coup d'État, passer en force? Est-ce qu'il y a un nouveau parti politique qui pourrait exister en plus des Républicains et des Démocrates derrière Trump? Est-ce qu'il y a des scénarios un peu plus chocs?
Moi, je vous dirais a priori non, mais en même temps, moi, je faisais partie des gens qui vous disaient aussi que Trump n'allait jamais gagner l'élection, donc je ne sais pas si vous devez m'écouter. Mais non, effectivement, il se comporte de façon très indépendante des Républicains. Cela dit, électoralement, il n'est pas sûr qu'il ait une base lui-même très solide. Ses sondages d'opinion sont quand même très défavorables, enfin, pour un président qui vient d'arriver. Il a une majorité d'opinions négatives. Mais Trump, il semble qu'il s'intéresse plus en fait, à sa popularité, à l'audimat, qu'aux élections. Et pour lui, l'élection, c'est dans 4 ans. Donc ça l'intéresse moins. Beaucoup d'élus, c'est avant. C'est dans moins de 2 ans maintenant. Donc eux, ils sont déjà inquiets.
Ce dont on se rend compte, là, en ce moment, Paul Shore, c'est les formes de résistance, en fait, à Trump. Il y a une résistance du pouvoir judiciaire face au sien, qui est le pouvoir exécutif. Il y a une résistance du monde culturel, moi, qui s'est exprimé dès l'investiture. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de résistance des États eux-mêmes? Chaque État, les 51 États américains, est-ce que chaque État peut se lever contre la Maison-Blanche?
Oui, c'est ce qui se passe. En fait, les 50 États, là, il y en a déjà 2, l'État de Washington et un autre. S'il y a un procès, là, en ce moment, c'est parce qu'il y a des États qui ont dit, ce décret met en danger l'économie de notre État. Et alors, il y a une discussion technique pour savoir est-ce que les États ont le droit de faire un procès sur ça, est-ce qu'ils sont fondés. Mais un des arguments, par exemple, l'État de Washington, où il y a Microsoft, c'est de dire, nous avons besoin des étrangers, c'est ça qui... Sinon, l'État va s'appauvrir. Et donc, le gouverneur de l'État, qui est un démocrate, dit ce décret du président met en danger l'économie de l'État de Washington. L'État de Californie a annoncé qu'il ne mettrait pas, il n'appliquerait pas un certain nombre de mesures. Vous avez la police et les municipalités de grandes villes comme Los Angeles qui disent qu'ils n'arrêteront pas les étrangers. Mais surtout, il y a aussi une résistance massive de la société civile.
Oui.
Il y a les contre-pouvoirs qui commencent à fonctionner, mais... Ce qu'on a vu aussi avec les gens qui se sont précipités dans les aéroports pour, d'une certaine manière, libérer les gens qui étaient détenus, c'est les Américains. Il y avait parmi eux des avocats et ensuite les juges leur ont donné raison. Mais c'est d'abord la société civile qui résiste et de façon très massive et spectaculaire.
On a vu les maires aussi, le maire de New York, le maire de San Francisco. Il y a eu des très beaux discours. Paul Shore, merci. Vos vêtements marquent l'homme optimiste quand même. C'est ça qui me rassure parce que vous avez une chemise à fleurs, vous avez une sorte de blouson en satinette de Vauclair. Vous marquez pas vos vêtements, votre foi en l'avenir.
Faut pas se laisser abattre. Hein.
Oui. Donc là, vous allez partir en séduction dans la rue?
Oui, en vélo.
Très bien. Vélo, chemise à fleurs. la fleur au fusil. Merci, Paul Chor.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, une actualité extrêmement actuelle.
Il a été avec nous pendant toute l'émission. Il a écouté, il a pris des petites notes alors que tu n'as pas de main. Si, qu'est-ce que
c'est? Si, j'ai des mains. J'ai des pinces avec des deux doigts par pince et où je peux prendre un stylo.
Mais tu as écouté l'émission, on va te représenter, c'est ammoniacal. Ammoniacal, tu n'es pas comme les autres.
Si, mais pas comme les autres, comme vous.
Oui.
Moi, je suis...
Comme qui?
Je sais pas quoi dire. Pardon.
Parce que tu as déjà d'aspect extérieur, puisque
parce que je suis
tu
moitié...
es constitué de trois moitiés.
Je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon.
On va te mettre ton... Tu veux faire ton petit jingle? Vas-y.
Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Mignon, 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 mignon. Ammoniacal.
Retour avec Ammoniacal. Je rappelle que c'est un petit bisou pour vous, les auditeurs.
On n'entend pas bien parce que j'ai les lèvres gercies.
Oui, puis tu n'as pas de langue. Donc c'est une petite langue en carton.
Si, rien.
Ah, c'est du carton avec un dessin dessus. Tu as dessiné dessus une petite mitraillette avec écrit « Mort aux méchants ». Oui, c'est pas grave. Tu as écouté l'émission Ammoniacal, tu as envie de réagir. On a parlé de Trump, on a parlé de biathlon.
Trump.
Le monde te fait peur.
Il faut vraiment que tout le monde aille voter pour pas qu'il passe.
Oui, effectivement. Il faut vraiment s'inscrire à la mairie de Paris, à la mairie de Metz, à la mairie de Brest.
Pour... Marie de Nancy, Marie.
Oui,
Marie Missé.
Marie Missé, très
bien. Entendu qu'elle était malade. Aussi, j'espère qu'on va avoir des médicaments.
Oui, très certainement. Je pense qu'elle a été au docteur ou au coiffeur. Et puis, à partir de là,
il y a... Mais fille, ça me tristait de voir qu'elle était si gentille.
Ah, mais elle est vivante encore. Elle était
oui,
là. Elle est revenue ce matin.
Peut-être que si elle est trop malade au bout d'un moment.
Non, ça va aller. Elle a une espérance de vie de 130 ans. Tu avais vu que le journal, c'était Marie Bonisseau pendant deux semaines que tu lis Paris. Oui. Tu voudrais que ça soit ton amoureux?
Elle m'a touché le cul.
Enfin, ça va pas. Tu voudrais que ça soit ta petite amoureuse?
Oui.
Ça te ferait plaisir. Et tu as vu que tu aimes bien quand c'est Armel qui réalise l'émission?
Non.
Ah. Pourquoi?
Parce que j'ai peur des roues.
Tu as peur des roues? Il a des roues?
Parce qu'avant, au Moyen-Âge, c'est eux qui tuaient les gens qui étaient condamnés. Peut-être que je vais trop loin. J'aurais peut-être pas dû fumer. Parce qu'Atman, il m'a fait fumer
des cigarettes bizarres. Alors tout de suite, il y a un petit message pour toi. On a quelqu'un qui veut te parler. Allô, monsieur?
Ammoniacal.
Papa?
C'est moi, c'est Titanium.
C'est qui?
Titanium.
Titanium?
Oui, c'est moitié homard. Moitié cuir.
Oui.
Et moitié langue.
Vous êtes moitié langue, moitié cuir, moitié homard?
C'est ça.
Je veux plus te voir parce que parce que tu es trop méchant, tu m'avais attaché.
Non, je vais te protéger, Ammoniacal.
Non, tu m'avais attaché, tu m'avais forcé à dire choses bizarres.
C'est trop concret aujourd'hui. Cette émission est trop concrète, on était obligé de l'arrêter là. On souhaite les lendemains d'anniversaire dans cette émission. Nous sommes le lendemain d'anniversaire d'Eugénie Poumaillou et de Juliette Gréco. On embrasse très très fort et on salue la grande Juliette Gréco dont c'était l'anniversaire.
De jolis mômes.
De jolis mômes. Ouais. Merci. À demain, on laisse Ammoniacal
avec son père.
Avec son père. À demain, merci et vive les 30 glorieuses qui vont s'installer maintenant, après le journal.
Va-t'en, je n'ai plus de voir.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.